pas se gêner sur Europe 1.
16h, 18h30, Laurent Ruquier.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de retrouver ma voix d'origine. Aujourd'hui avec vous, c'est Isabelle Motreau qui m'a filé sa crème. Ouais, eh oui, les malades aussi. Isabelle Motreau est là avec vous.
Bravo!
Christine Bravo!
Ah, elle est en train de tousser aussi, ça promet. Hein.
Mais elle, c'est sa voix habituelle. Yann Moix, c'est là. Vincent Dedienne. Jérémy Michalak. Et Christophe Beaugrand.
Bonjour. Bonjour Christophe.
Vous n'êtes pas malade, vous êtes en pleine forme, vous, Beaugrand.
Dans une forme éblouissante.
Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'il est tout le temps en forme. Ouais. Quoi.
Il devrait avoir attrapé lui aussi le froid, parce qu'on l'a vu nu sur les Champs-Élysées.
C'est vrai, oui.
Pour
oui.
Virgin Radio. Qu'est-ce que vous faisiez nu sur les Champs-Élysées?
Pourquoi pas? J'avais envie d'offrir au public ce qu'il mérite, c'est-à-dire le bonheur. Ils avaient des étoiles dans les yeux.
Notre public ne mérite rien aujourd'hui. Soyons d'accord.
Mais pourquoi vous êtes allé sur les Champs-Élysées à poil?
Parce qu'on avait lancé un pari. Je pensais pas que ça allait marcher à ce point-là pour nos followers sur Facebook. Ils ont été beaucoup plus nombreux et efficace que prévu pour tenter de voir ma teub. Et voilà. Et donc,
non, tu l'as fait vraiment?
Oui, mais j'avais une chaussette.
Ah, une soquette.
J'avais une coque, une soque, comme on dit.
C'est pas un chat qu'il avait dans la gorge. Hein.
C'est l'expression. J'avais pris une chaussette rose, je trouvais que c'était mignon.
C'est mieux, oui. Ouais,
bien sûr, évidemment.
C'était très joli.
Une couleur au hasard.
Est-ce que tu referais la même chose dans la rédaction d'Europe 1?
Oh, je ne sais pas, je crois que ça pourrait plaire à Jean-Pierre Elkabbach.
Non,
pas ça. On dirait, qu'est-ce que tu fais là? Non, ça pourrait être pas mal.
Ah, vous imitez Jean-Pierre Elkabbach?
Ah, non.
Si, c'était
lancé là.
Non, alors j'ai pas fait exprès.
Allez-y.
Oh, et boulot, arrête de laisse-moi parler là.
Ah oui, c'est bien.
C'était incroyable ça.
L'interview de Vladimir Poutine.
Oh là là. Il essayait de lui parler dessus à chaque fois. Gilles Boulot, il le regardait de temps en temps, genre j'ai envie de te tuer, Jean-Pierre. J'aurais adoré être derrière pour voir la conversation qu'ils ont eue en sortant de l'interview.
Et Vladimir Poutine, vous le faites aussi?
Non, ça je ne fais pas ça.
C'est vrai.
Ah non, je ne fais pas les tortionnaires russes moi. J'ai arrêté.
Je fais juste Mireille, c'est tout.
Bon, bon, enfin voilà. Bah écoutez, à part
c'est
ça.
C'est vrai qu'il est heureux ce gars. Mais qu'est-ce qui heureux.
J'ai vu Rihanna hier.
C'est pas vrai.
Voilà. Rien.
Mais vous tombez dans tous les panneaux. T'as pas vu que c'est le plus grand dépressif de la Terre?
C'est pas ça. C'est vraiment l'imbécile heureux. Dans toute sa splendeur. C'est-à-dire ce type, regarde, il y a vraiment pas de quoi se réjouir. Le pays est en crise. Il gagne pas une thune à TF1. Il bosse comme un chien.
Mais c'est important.
En même temps, je m'interroge. C'est tes parents qui...
En fait, grosso modo, soit tu penses que j'ai une force psychologique exceptionnelle, soit je suis complètement con.
Oui,
je crois que c'est la
deuxième
solution.
Je pense que c'est la deuxième.
Je voudrais simplement te dire,
est-ce qu'il t'arrive d'être triste?
Oui, de temps en temps.
Enlève le micro,
pourquoi,
tu vas
voir. Par exemple,
quand il vous entend.
Bah, quand je rate un épisode de Plus belle la vie.
Ah oui, bah,
voilà.
Des fois, ça bug le replay.
Ou alors tu lui apprends que Candy n'a jamais existé.
Elle a existé, tout le monde le sait.
Candy n'a peut-être jamais existé, mais Fleur Jolie est au téléphone. Bonjour, Fleur Jolie.
C'est pas vrai.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde.
D'où ça vient ce nom, Fleur Jolie?
Ça vient de nulle part. En tout cas, c'est moi qui me le tape. Hein. Jolie Fleur, autrement dit.
Mais c'est un pseudo en fait.
Ah non, c'est mon vrai nom de famille et mon prénom.
Elle subit une connerie parentale.
C'est incroyable. C'est-à-dire votre nom de famille, c'est Jolie et vos parents vous ont prénommé Fleur.
Exactement, on ne pouvait pas faire mieux.
Une
jolie
fleur dans une pauvre vache. Une jolie vache déguisée.
On arrête. Hein.
Ah oui, vous y avez eu le droit tout le temps, évidemment. Et si vous nous appelez, c'est parce que vous avez des amis dans notre public aujourd'hui.
Voilà, exactement. Donc j'appelle de Franche-Comté parce que j'ai
de Picardie. Vous appelez de Picardie?
Non,
de Franche-Comté, elle vous dit.
C'est la même chose maintenant.
C'est où?
C'est dans l'Est.
C'est une des 14 régions françaises.
On est classé 7e là dans l'émission qui passe sur M6, donc on est plutôt pas mal pour le moment.
C'est bien. Alors comment s'appellent vos copains copines qui sont dans la salle?
Il s'agit de Malika et Edouard. Je voulais faire un énorme bisou de la part de moi-même, David et Max.
Ah ben voilà, ils sont là.
Bonjour Malika et Edouard.
Ils nous font des coucous là.
Ils n'ont pas l'air frais. Hein.
Ah ben c'est très bien. Donc j'aurais bien voulu être avec eux. Et puis dommage que Pierre Bénichou ne soit pas là, parce que j'aurais bien voulu qu'il fasse un gros
dommage
bisou à Malika.
Vous. Ah, vous auriez aimé qu'il vous chante la trompette, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Vous savez, Christophe Beaugrand peut vous imiter la trompette de Pierre Bénichou.
Ah non, la trompette, je ne le fais pas.
Christophe Beaugrand, j'avais suivi l'émission sur Virgin et je suis ravi qu'il ait traversé les Champs-Élysées, qu'il ait eu le courage de relever son défi.
Qu'elle allait dire, je suis ravi qu'il arrête.
Je n'arrête pas enfin.
Nicolas maintenant est au téléphone, succède à Fleur Jolie qu'on embrasse. Bonjour Nicolas.
Bonjour Laurent, Laurent, bonjour tout le monde.
Pour une petite rectification, hein. On a commis une erreur hier à propos du débarquement, et s'il y a bien un jour on doit rectifier, c'est aujourd'hui.
Oui, absolument. En fait, vous avez posé la question, oui, comment s'appelait l'opération du débarquement en Normandie, et tout vous avez répondu, c'est l'opération Overlord.
Overlord.
C'est Christophe de Chavannes qui a répondu. Et vous avez dit bonne réponse. En fait, l'opération Overlord, c'était l'opération de reconquête de la Normandie. Mais ça englobait plusieurs opérations, dont l'opération Fortitude, par exemple. Voilà. Et la question que vous avez posée, c'était quel était le nom de l'opération de débarquement. L'opération, c'était l'opération Neptune.
Ah oui, opération Neptune. Bon, c'est une petite erreur, mais enfin, Overlord, ça existait aussi quand même.
Absolument, Laurent.
Voilà. Allez, vous n'êtes pas contrariant, Nicolas. Des auditeurs comme vous, on les aime. Qu'est-ce que vous faites ?
Moi, j'aime Christine.
Ah, c'est vrai ?
Ah, c'est mignon.
C'est curieux.
Ah, expliquez pourquoi.
Bah parce que comme elle, je galère pour coucher avec quelqu'un. Donc
Ah mais non, c'est mais Christine ne galère pas, elle a un succès incroyable.
C'est l'opération Christine séduction. A un succès incroyable parce que Benjamin, qui est dans la salle aujourd'hui, nous écrit « Je serai présent dans le public, j'en profite pour déclarer ma flamme publiquement et en direct à la femme la plus excitante que je connaisse. Ah, » Ah, il est là, Benjamin, il est là au premier rang.
Ah ouais, c'est vraiment le jour du débarquement.
Il n'est pas de la Sarthe, lui.
C'est lequel, je ne vois pas.
J'en profite car elle a une beauté sophistiquée.
Il est mignon.
Cette grande blonde ibérique n'a d'égal que son, pour sa beauté, son langage riche et fleuri.
Oh, la vache.
Un vocabulaire efficace, mais qui sait aussi parfois vous surprendre, comme par exemple quand elle dit « Bah quoi, je vais mettre un suppôt. Je n'ai pas beaucoup d'argent », nous dit Benjamin. Et malheureusement...
Ah bah ça n'intéresse pas. Alors ça n'intéresse pas.
Je sais que ça compte beaucoup pour elle, mais...
Tu rigoles, je couche qu'avec des pauvres.
Mais je peux lui offrir quelques nuits sur sa terrasse sous le ciel étoilé parisien avec moi. Je suis jeune ingénieur géologue.
J'adore.
Ouais, c'est bien.
Ouais, c'est mieux.
Après nos nuits torrides de l'été, nous parlerons ensemble du bon vieux temps, de Jean-Paul Sartre, du Brasero, de l'avortement du 24 décembre, des ballons gonflables, d'anniversaire de sa fille.
Parlez surtout de l'avortement.
En ce jour solennel du 6 juin, aurais-je le privilège, moi aussi, de pouvoir débarquer dans son cœur.
Qu'est-ce que j'ai peur.
Qu'est-ce que c'est bien écrit. À défaut, elle peut me filer le portable de sa copine Beaugrand, car... On ira jouer au suppôt également. On va écouter alors là vraiment.
Je le sentais venir. En fait, elle rabat des mecs pour moi, Christine.
Ah, c'est terrible quand même, monsieur. N'ayez pas honte quand même.
J'ai peur que non.
Elle y a tellement cru jusqu'à la dernière ligne.
Christine, bravo, elle a un succès incroyable. Vous savez d'ailleurs, la preuve, Jérôme me dit, je m'appelle Jérôme, je suis dans le public aujourd'hui avec mon ami Gaël. Nous ferons le voyage de Genève pour peut-être avoir une bise de Christine. Ça ferait particulièrement...
Ah ouais, mais attends, c'est pas un mec qui a un mec.
Ah oui.
Ah si. Ils sont où?
Bah, ils ont pas l'air hétéro.
Oh non, mais c'est pas possible.
Ils ont pas l'air super hétéro non plus, je suis désolé.
J'ai l'impression que Christine fait la Dalida de notre émission. Elle a que des copains pédés.
Le problème, c'est qu'elle se suicide jamais.
Europe 1.
On va se gêner. Qui a le mieux bossé ?
Ah, il y a des beaux cadeaux dans le qui a le mieux bossé aujourd'hui. Alors, vous avez intérêt à vous battre les uns et les autres.
Voilà. C'est un spécial débarquement ou pas ?
Ah, je sais pas si
ça. Moi, je pense que les hortensias, ça devrait aller qu'aux gens dont les filles s'appellent Hortense.
C'est Jardiland qui nous a envoyé ces hortensias pour le.
Excusez-moi, mais le seul qui a un jardin ici, c'est quand même moi.
Ah, oui, non, moi j'ai une terrasse.
Oui, bah c'est pas un jardin.
Mais moi, j'ai une fille qui s'appelle Hortense.
C'est vrai.
On verra qui gagne parce qu'il y a pas que ça. Hein. Il y a beaucoup de cadeaux aujourd'hui. Je vous laisse la surprise, mais d'abord il faut remporter le qui a le mieux bossé. On va commencer par Vincent Dedienne.
C'est une spéciale débarquement ou pas?
Qui va... Non, pas forcément.
Ah, tant mieux parce que je n'avais pas révisé.
Ça tombe bien, j'espère que vous avez révisé le basket.
Évidemment, tu penses. Bien sûr.
Vous allez me dire qui a remporté son 10e titre de champion de France de basket hier en battant Strasbourg 73 points à 70, 14 ans après son dernier sacre. Quelle ville, quel club?
J'ai pas entendu la question.
Oh, si, quand même.
Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, Laurent?
Un club de basket important.
Eh ben, c'est très certainement Ajaccio.
Alors, s'il y a vraiment...
Non, je plaisantais. C'est Guignon.
Non, plus.
C'est Le Havre.
Tu l'as perdu,
c'est Villeurbanne.
C'était Limoges.
Mais déjà que vous m'obligez à lire en un jour un livre sur le foot et le rock alors que je déteste ça, vous me posez une question sur le basket.
Eh ben oui, 10e titre pour Limoges. Vous êtes éliminé. Chère Isabelle Motreau, êtes-vous capable de me dire dans quelle ville se trouve le château où mon déjeuner tout à l'heure, les chefs... Quelle ville? Le château de...
Le château de...
Ajaccio.
Non, Pas du tout. Le château.
Non, mais vous êtes nul.
Le château normand, là.
Oui.
Oui.
Le château de Bénouville. Oh. Vous êtes éliminé. Quel est le nom du cimetière américain? Ça, c'est un spécial débarquement.
Oui, oui, oui.
Quel est
oui,
le nom du cimetière, enfin, la ville où se trouve le cimetière américain, où ce matin, François Hollande et Barack Obama sont allés se recueillir 10 000 soldats américain y repose.
Alors... J'ai entendu l'interview du maire qui veut faire un selfie avec Obama. Merde, j'ai oublié le nom de la ville.
Colville-sur-Mer. Vous êtes éliminé.
Nana,
Jérémy.
Ça sent bon là.
Jérémy Michalak.
Je crois que ça va pas s'arranger en plus.
Jérémy.
Si tout le monde perd.
Pouvez-vous me dire le nom du chef indien qui compte profiter du mondial pour parler de l'Amazonie?
Raoni,
il y en a qu'un.
Alors là,
c'était lui au Pocahontas. Donc
Christine, bravo. Êtes-vous capable de me donner un des trois Français, un nom des trois Français? Vous avez une chance sur trois.
Regarde comment elle demande.
On va t'aider, Christine.
Cher au public, vas-y. De lui souffler.
C'est déjà que c'est mort. Alors,
un des trois Français finalistes à Roland Garros ce week-end.
Fils,
Mais non, attends, il y a pas de Français finaliste.
Un des trois Français.
Ah ben si, il y a trois Français finalistes.
Ça veut dire en handisport, j'imagine.
Alors il y a un handisport et en double aussi.
Ah, il y a des doubles. Oh là là, mon Dieu.
Gasquet ?
Gasquet, non.
Oh,
non.
Mince.
Chut.
Julien. Oh non, alors là, Julien Benito, excusez-moi.
Mais non, attendez, dis-le, dis-le,
Christine. Non, ils ont été adorables. Benito.
Non. Benetton.
Vous êtes éliminé. Oh, il s'agissait de Julien Bento et Édouard Roger Vasselin qui sont qualifiés pour le double, messieurs, à Roland-Garros. Et effectivement...
T'es vraiment sans pitié,
il y a aussi...
Je veux dire, franchement, là, aujourd'hui, c'est spécialement dur. Aujourd'hui... Alors, tu sais, je vais chez le docteur. Franchement, tu me sors le tennis.
Tu vas chez le docteur?
Non, mais écoutez, je suis désolé, ça fait partie de l'actualité. Trois Français en finale à Roland-Garros. Le troisième, c'est effectivement dans la catégorie...
Ouais, et lui, Raoni, c'est normal.
En disport.
Oui, ça, je dois dire que Raoni, il nous reste Stéphane... un petit peu au travers de la gorge. Si j'ose
Raoni,
dire.
Excuse-moi. Mais...
Je vais offrir sur un plateau. Stéphane Houdet, parlons-en quand même. Parce que c'est le tenant du titre dans la catégorie handisport à Roland-Garros. Et il disputait ce matin à 11h la finale. Stéphane Houdet, c'est le troisième Français finaliste de Roland-Garros.
Il est magique parce qu'il a foutu une branlée l'autre jour à Florian Gazan, quand même, qui évidemment a ses deux jambes. Lui, il est sur roulette, il va à une vitesse. Ouais. J'ai vu la vidéo, c'est incroyable ce qu'il fait.
Il ne faut pas qu'il pleuve. Parce qu'avec la terre battue, le fauteuil...
Ah oui, ça s'enlise. Il faut des pneus spéciaux.
Restons à Roland-Garros, pouvez-vous me donner le nom d'une des deux finalistes femmes de la grande finale de Roland-Garros, Yann Moix?
On a toujours su que ces cadeaux seraient pour Michalak. J'en ai aucune idée.
Aucune idée.
C'est un nom de savon.
Il y a une connue, non, une connue.
Si, si. Allez. Non, laisse tomber.
Il y en a une qui a un nom de savon.
Mais arrête, il veut se faire. Il veut se le faire, c'est tout.
Simon.
Allez, vas-y, va chercher tes merdes là. Allez.
Bon, on laisse gagner le nain.
Quand même, c'était facile. Maria Sharapova, quand même.
Oui, bah tu penses.
Maria Sharapova, vous êtes éliminée. Yann,
tu as un cactus et tu sais où tu vas te le mettre.
Mais moi, j'y suis pour rien. C'est lui qui pose des questions.
C'est beau, Hortensia, pour vous, Joujou.
Oh là là.
Offert par Jardiland.
Génial.
Salaud.
Il n'y a pas que ça. Regardez aussi le cercle des gourmets. Vous offre ces quelques délices. J'ouvre le paquet parce que je n'ai pas vu encore ce qu'il y avait à l'intérieur. Regardez. Des rillettes pour canard. Ah.
Non, des rillettes
pour canard.
Des rillettes
pour canard. Mais l'autre, il est totalement drogué. Oh là là, ça lui monte à la tête. Hein.
Des rillettes pure canard. Un filet de porc boyau.
Quoi?
Bah, c'est un beau cadeau offert par le cercle des gourmets. Des délices d'initiés. Puis Sébastien, qui est dans le public, vous offre aussi ce cactus, des cactus en métal. Vous voyez,
ça va être bon.
C'est encore mieux.
Ah. Oh, finalement, c'est pas mal. Hein,
c'était écrit pour Christophe Beaugrand, mais vous pourrez vous aussi vous en servir, évidemment.
Je peux même lui offrir de bon cœur, éventuellement.
Quoi, tu peux nous Sébastien. Dire ce que c'est qu'un cactus en métal?
C'est de la déco intérieure. Voilà, c'est Bourguignon, la manufacture, qui fabrique ces cactus en métal.
Oui, ça a l'air bien.
C'est comme ça. C'était pour toi. C'est pour Michalak.
Je vois ça. C'est scandaleux.
Regardez, le CD de Maria Carey aussi, le nouvel album de la diva Miriam Maria. C'est pas mal hein, quand même, tous ces cadeaux.
Il y a beaucoup de choses.
Ouais, insiste.
Vous êtes gâtés, Joujou, aujourd'hui.
Et les petites fleurs que vous avez derrière, là, les hortensias, je sais pas ce que c'est. Ça,
je
c'est
vous ai
pour,
dit, c'est Jardiland.
Ah, c'est pour moi, ça?
Mais oui.
Ah, j'ai cru que c'était que le cactus.
On va pas vous voir derrière le bouquet.
Non, je vais me cacher dedans.
Si vous étiez aimable, vous les offririez à Christine Bravo ou Isabelle Motreau.
Ces cadeaux, c'est pour moi, je vous offre les fleurs.
Voyez.
On va... Non, mais alors.
Mais il y a un pot qui est original,
les avoir parce que c'est la plus vieille.
Non.
Oh, elles sont méchantes entre elles.
Non, on va partager la touffe.
Oui. Comme toujours.
Allez, dans un instant, d'autres questions. Une première question sur le débarquement, après celle du qui a le mieux bossé, évidemment. Mais cette fois, je voudrais vous parler de monsieur Raymond Defer, qui a 91 ans. Le Parisien lui rend hommage, puisque ce Français fut parachuté en Normandie. Et effectivement, il sera présent, ça va de soi, aux commémorations aujourd'hui. Peut-être vous l'avez vu ou entendu sur les radios ou à la télévision. Mais monsieur Raymond Defer, qui a 91 ans, curieusement, son âge n'est pas cité par le Parisien dans le titre qui lui est consacré aujourd'hui. Quel autre âge peut-on lire dans le titre du Parisien ?
C'est une erreur ou bien
non,
c'est volontaire ?
Non, c'est pas une erreur.
Okay. Il devait être officier ?
Non.
Mais alors attends, c'est-à-dire qu'il ne donne pas le bon âge volontairement ?
Oui.
Pour expliquer quelque chose ?
Il a 91 ans et c'est un autre âge qu'on peut lire dans le titre du Parisien, titre de l'article qui lui est consacré. Pardon ?
18 ans ?
18 ans, non.
C'est très bizarre votre question.
Eh ben oui, parce que c'est très bizarre, mais c'est comme ça.
Donc c'est une politesse pour rajeunir ce monsieur de fer.
Pas du tout.
Pas du tout.
C'est quoi? C'est pour faire donner un effet dans l'article pour expliquer quelque chose qu'il a vécu.
Oui. Ça,
il
c'est
avait
sûr.
19 ans quand il a sauté. Il a 91 ans maintenant.
Non, rien à voir avec ça.
Il considère qu'il est né ce jour-là.
Non plus.
Ben non,
pour quelle raison y a-t-il un autre âge que celui qu'a aujourd'hui monsieur Raymond de Fer dans le titre de l'article qui lui est consacré? C'est ça la question.
Est-ce que c'est lui qui se donne un autre âge?
Non.
Est-ce qu'il a changé nationalité?
Non plus.
Genre toujours 20 ans?
Non.
Est-ce que c'est un jeu de mots?
C'est un jeu de mots.
Deux fois, deux fer avec son nom de famille?
Non.
Pour empêcher?
Non.
Est-ce que c'est lié à l'endroit où il a atterri?
Exact.
Ça c'est un âge, ça. Hein.
C'est sur une plage?
Non. Il a atterri
Omaha
à 7.
Beach, Utah Beach.
Non.
Il a atterri à
7.
Il a atterri à 3. Il a mal
visé.
Il a atterri à 3 ou à 7.
Est-ce que c'est le nom d'une plage de débarquement?
On se rapproche, effectivement.
Avranches, Ouistreham.
Non. Je vous parle d'un autre âge. Alors.
Un autre âge. Autre âge?
D'un autre âge.
Un jeu de mots.
C'est une plage qui a le nom d'un chiffre.
Mais non.
Ah bon?
C'est pas une plage d'abord.
Ah, voilà. C'est une commune. C'est une petite bourgade.
C'est un village.
40 ans.
40 ans. Ah. Bonne réponse de Christine Bravo. On lui a soufflé?
Oui.
Non. Là, vous commencez à me saouler, là.
Les gars, elle
s'énerve
vraiment.
Là, vous allez arrêter.
Non, il y a juste quelqu'un qui s'est levé, qui lui a susurré quelque chose à l'oreille, mais je crois que personne ne lui a soufflé.
Personne
n'a soufflé. Il y a un monsieur avec un panneau là-bas.
Je connais effectivement très bien les parachutistes qui sont arrivés.
Oui,
je connais pas les parachutistes.
Personnellement.
Cette ville de 40 ans m'a marqué parce que elle est d'abord à cause de son nom, 40 ans.
Ah oui, c'est sûr.
Et tu sais, il n'y a rien qui me fout plus en rogne que quand je dis la vérité qu'on ne croit pas.
Ah bah oui, je comprends.
C'est tellement rare.
Donc c'est pour ça. C'est exactement pour ça. D'habitude, je m'en fous.
Bon alors, 40 ans, en tout cas, c'est une excellente réponse de Christine.
Bravo, quelle culture.
Bravo. Quel talent.
Hein? C'est fou de savoir autant de choses. C'est incroyable.
Il a sauté sur 40 ans.
Tu vois, il y avait des parachutistes.
Oui, ben ça, oui, tout le monde le sait.
C'était dans la question.
C'est dans la question, Christine.
Oui, ben j'avais oublié qu'il avait sauté.
Il a sauté sur 40 ans. Raymond Defer, 91 ans. 40 ans, effectivement, c'est un village, une commune du département de la Manche, plus particulièrement située en basse Normandie. Petite commune de 6000 habitants, 40 ans. Au milieu des marais assainis et transformés, voilà.
Ouais, il y a des marais. Non, je te jure, ça m'a marqué, puisque je me suis demandé comment les mecs, ils avaient fait pour ne pas, quand ils sautaient en parachute,
s'enliser.
Et ils ont été obligés, justement, d'assainir les marais pour que les autres puissent descendre. Ils ont même libéré ces parachutistes.
C'est-à-dire que les autres patientaient dans l'air, comme ça, pendant qu'ils assainissaient en bas.
Et toute la nuit, ils ont bossé comme des dingues.
Certains sont restés 7 jours en suspension.
Je sais pas, refaites un petit tour,
Est-ce que ce sont ceux-là?
Les autres étaient en quarantaine. Regardez, Rina est furieuse.
Elle boue intérieurement.
J'adore quand elle est comme ça, je la trouve encore plus excitante.
Ouais, elle est sexy. Hein.
C'est ça les femmes de 40 ans.
Et ça, c'est la vérité.
Comment appelle-t-on, ce sera la question suivante, les habitants de 40 ans?
Christine, tu les connais si bien.
Est-ce que ce sont les quarantenaires? Non, c'est pas ça, ce serait trop facile.
Est-ce que ce sont les quadragénaires?
Les quarantains?
Eh bien, je ne sais pas. Mais on aura peut-être la réponse d'ici à 17h.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur.
Nous allons maintenant saluer Caroline et Marc. Bonjour Caroline, bonjour Marc.
Bonjour Laurent.
Caroline est à Berlin, Marc est à Strasbourg. Caroline, que faites-vous en Allemagne ?
une boutique en ligne de mobilier et d'objets de décoration vintage.
Oui, oui, si c'est une boutique en ligne, vous n'êtes pas obligé d'aller en Allemagne.
Mais c'est ça. Pourquoi alors être allée là-bas?
Parce que je suis tombée amoureuse de Berlin il y a 6 ans.
Et d'un Allemand aussi?
Ah ouais, ouais.
Non, d'un Français. J'ai emmené mon Français.
Le jour du débarquement, ça craint un peu. Hein.
Mais non, justement, je pensais à vous.
Et alors, comment ils sont vos ameublements? Enfin, vos meubles?
Mais c'est des meubles des années 50, 60, 70.
Ah, génial.
Un peu comme ce que vous pouvez voir dans le clip de Stromae, vous savez, tous les mêmes.
Profitez-en, redonnez votre site internet alors.
Oui, avec plaisir. C'est opening.com, O-D-P-N-I-N-G.com.
D'accord. Parfait. Vous n'avez pas de mobilier allemand des années 40?
Non, ça j'ai pas.
D'accord, c'est pour
des petites chaises à moustache, c'est très mignon.
Non.
Avec un aigle.
Il y a la coudoir qui se lève de temps en temps, c'est très gênant.
Mais t'es drôle, toi.
Marc est à Strasbourg maintenant. Bonjour Marc.
Bonjour Laurent, bonjour à tous et bonjour à Caroline.
Qu'est-ce que vous faites à Strasbourg?
Je suis gestionnaire de patrimoine immobilier.
Ah, dites donc, ça c'est un métier qui rapporte normalement.
Ah, tu m'étonnes,
non, c'est dans le logement social.
Marc, quel a été votre dîner d'hier à Strasbourg?
Dans le classique, donc flamme-cuche maison.
Ah oui, classique alsacien. Ah oui, quand même, là. Mais vous êtes alsacien d'origine, alors?
On va dire ça comme ça.
Bon.
Mais vous avez remarqué que les auditeurs d'Europe 1 mangent excessivement de quiche et autres pizzas?
J'ai remarqué
ça. Qu'est-ce que tu en conclus, alors? Vas-y.
Eh bien, je suis en train de travailler là-dessus, donc je te livrerai mes conclusions en fin de saison.
Et vous, Caroline, votre dîner à Berlin, qu'est-ce qu'on mange en Allemagne en ce moment?
J'ai mangé italien, j'ai mangé risotto aux champignons.
Ah oui, c'est bien allemand ça, oui, effectivement.
Bah, aucune cohérence.
C'est qu'en Allemagne, il vaut mieux manger italien quand même.
Hein. C'est international, Berlin.
Ah, une risotto, effectivement.
Une risotto, oui.
Caroline et Marc, vous allez peut-être partir à Bandol, l'hôtel 4 étoiles Dolce Frégate Provence vous attend. C'est entre Marseille et Toulon. Cet établissement est un lieu unique et bienfaisant pour le corps et l'esprit, c'est écrit comme ça. Tout respire la Provence, là-bas, la gastronomie, les vignobles. La lavande avant tout, ça va de soi.
Ah, ouais, bien sûr.
Et évidemment des informations complémentaires si vous le souhaitez sur le site internet www.dolcefregate.fr. Prêt pour la question qui vient?
Prêt, oui.
Très facile la question, vous avez intérêt à profiter des 10 secondes d'avance sur mes camarades, 10 secondes que nous vous proposons. Qui a été décoré hier par la reine Elisabeth II chez nous en France?
Stéphane Bern.
Bravo. Ouais. Stéphane Bern, bravo, bravo.
Oui,
bonne réponse.
Oui, il a trouvé.
Alors là,
oh là là.
Évidemment, je suis obligé de demander à Stéphane Bern comment ça s'est passé.
Oh, j'étais formidable, j'étais face à la reine, j'ai tortillé un petit peu du croupion quand elle m'a accroché cette belle petite médaille.
Ah, mais sauf qu'on pourra pas vous appeler sœur Bern, j'ai appris.
Oh, c'est dommage.
Mais pourquoi?
Vous pouvez m'appeler tante Bern, si vous voulez.
Non.
Monsieur, tout le monde sait qu'il est gay, il l'a dit 10 fois.
Ah non.
Mais si, il l'a dit dans les interviews.
Non, la reine d'Angleterre le savait pas. Elle veut venir récupérer la médaille.
Non mais quand même, c'est incroyable, j'ignorais ça, qu'en fait, quand on était évidemment décoré par la reine, fait chevalier de la couronne britannique, il faut être anglais pour qu'on puisse vous appeler sœur quelque chose.
Comme Sir Elton John, par exemple.
Ou Mick Jagger.
Mais ça marche pas pour Stéphane, on pourra pas l'appeler sœur Bern, parce que les étrangers n'ont pas le droit à ce, non pas ce titre, mais en tout cas à cette, comment on pourrait dire, appellation, on va dire ça comme ça, d'origine contrôlée. Mais vous êtes content quand même, Stéphane?
Oui, je suis tellement heureux, c'est l'accomplissement d'une existence.
Ben oui, je comprends. C'est votre accomplissement aussi, cher auditeur qui partait pour Bandol. Marc, vous partez avec qui?
Avec ma femme, Angelina.
Angelina, oh, voilà un joli prénom, dites donc.
Très joli.
Et c'est, ça vient d'où, Angelina?
D'Italie.
D'Italie, elle est italienne.
Oui.
Ah ben voilà, ben écoutez, Caroline, elle, pendant qu'elle mangeait son risotto, vous étiez...
Non, je pense qu'il faut arrêter là.
Mais ça,
tu l'as dit.
Ça part d'un bon sentiment. Hein.
J'ai parti sur une fausse piste.
Donc, il ne l'a pas dit, donc très bien, restons-en là.
En tout cas, vous avez mangé italien également, et tout va bien.
Et c'était pas du risotto aux champignons.
Ça va bien se passer.
Caroline, on vous embrasse aussi, c'est perdu, je suis désolé.
C'est pas grave, vous voudriez pas envoyer le livre des 15 ans d'Europe 1, ça me ferait super plaisir.
Non. Allez, si on en a encore en stock, c'est promis.
S'il vous plaît, ouais.
Mais je peux pas vous promettre, je sais pas si on en a encore en magasin, comme on dit, mais Caroline, si c'est le cas, on vous l'envoie direction Berlin, sans problème, on vous embrasse tous les deux. Merci Caroline, merci Marc. C'est évidemment le jour le plus long aujourd'hui. Christine Bravo est passionnée par... Pas seulement,
elle est spécialiste surtout.
Pas seulement 40 ans, mais par ce débarquement et ses commémorations.
Ouais. D'ailleurs, tu vois, hier même, j'ai tweeté un petit documentaire qu'a fait un jeune homme. Je l'ai mis sur mon sur mon site Twitter, mon compte Twitter. Je suis absolument mais passionné.
Là c'est bon, le jour le plus long, c'est la phrase la plus longue. On sait pas, on a souvenir quand elle a commencé, on sait pas quand ça se termine. Mais je crois qu'elle sait pas non plus hein.
Tu voudrais pas parler en 140 signes?
Ouais. C'est un petit jeune qui a sauté sur 50 ans.
Écoute, ça fait à peu près une semaine que je suis totalement replongée là-dedans.
Ça tombe bien, parce que j'ai une question qui va certainement vous permettre de briller, puisque ces 24 heures qui ont changé la guerre sont détaillées dans toute la presse aujourd'hui, ce 6 juin 44 à minuit 5. Le général Eisenhower donne le feu vert à l'opération Overlord. Évidemment, on commence à bombarder le long de la côte entre Le Havre et Cherbourg. À 1h du matin, les hommes de la 82e Airborne américaine sont parachutés dans les terres.
Et là, c'est l'opération Neptune.
Près de Sainte-Mère-l'Église. 6h30, après le bombardement naval des fortifications allemandes, c'est l'assaut des plages, particulièrement évidemment Omaha Beach. Mais alors, ma question, c'est à 10h du matin, que se passe-t-il ?
Eh bien, Hitler est réveillé.
Bonne réponse de Christine,
bam !
Bravo !
Ah ben dis donc,
excellent.
Bah il se levait tard.
Hein. Il s'était couché à 4h du matin.
Ah bon ?
Et
ah
bah quand le débarquement a commencé, personne n'a osé aller le réveiller.
Si on pouvait arrêter de souffler les réponses à Christine, c'est chiant. Là, ça devient fatigant. Les gars.
Il se levait vers 4h de l'après-midi.
Adolphe
Ouais.
Ah bon.
Il se couchait vers 4h du matin.
Quelle grosse feignasse.
Oui, mais il se couchait
vers 4h du matin. Il a quand même fait beaucoup de choses en dormant beaucoup. Je trouve que c'est un homme admirable. Quand même.
Il passait ses journées en pyjama. Une dizaine d'heures.
On l'a surnommé le commandant Couche-toi. Hein.
Non, c'est bien.
Ah non, mais vous en savez des choses, Christine.
Non, mais je suis passionnée.
Ça doit être compliqué.
Et je vais vous dire un truc qui va évidemment vous faire tous ricaner, parce que vous êtes des gros ricaneurs sans âme. Moi, je suis très, très émue.
C'est vrai.
Je suis extrêmement émue par ce débarquement. D'abord parce que mon père, qui était lui-même déjà réfugié politique espagnol, donc qui avait passé la frontière en 1939, s'était retrouvé en Normandie et a rencontré le général Patton. Et Patton a donné à papa des bonbons, des boîtes de conserve, puisque...
Non mais là, on doit vous croire ou pas ?
Non mais là, on peut pas... Non mais
plus,
là, c'est compliqué, là.
Est-ce que De Gaulle a toujours son briquet ?
Les armées de Patton étaient déployées sur toute cette Normandie où mon père, il avait 14 ans, il était apprenti maçon, et ils ont demandé au culot un groupe de mômes, Patton, Patton, et puis les mecs disaient par là, par là. Et ils sont arrivés une dizaine, et Patton était en train de se faire couper les cheveux. Il était avec son coiffeur, personne parlait anglais, et Patton a dit espagnol ? Et mon père a levé la main, et Patton parlait l'espagnol, et donc ils ont pu, il a dit donnez-leur des boîtes de conserve, des bonbons, des chewing-gums.
Ah bah justement, tiens, ça c'est la question suivante. Tout ce que les GI nous ont apporté, c'est un article du Parisien aujourd'hui, les symboles de la liberté, les petits bouts d'Amérique. Alors évidemment, les barres chocolatées dénommées Mars, hein, quand même, c'est arrivé à ce moment-là.
Il y a les chewing-gums.
Les chewing-gums.
Les
chewing-gums, ça va de soi. Le coca aussi, les évidemment. Cigarettes. Le fameux briquet Zippo. Mais... quoi d'autre dans cette liste ?
Les
banilons, c'est vrai aussi.
Le Nescafé,
c'est-à-dire
le café soluble.
Le café soluble, bonne réponse de Jérémy Michalak.
Parce que moi, mon père était arrivé en fait sur la plage.
Jacques Vabre.
Jacques Vabre. Gringo l'appelait à l'époque. Mon père colombien.
Il était embrouillé avec Mussolini à l'époque.
Oui, ils étaient un peu fâchés.
Ah ben moi, ma grand-mère, c'est un Américain qui est en Normandie.
Qui lui a fait quoi ?
Bah, qui lui a présenté son café, le fameux café grand-mère.
C'est con. J'adore.
La reine, évidemment, d'Angleterre n'est pas venue seulement pour décorer Stéphane Bern hier.
Oh non.
Elle est arrivée Gare du Nord. Mais il s'est passé quelque chose d'incroyable, Gare du Nord, puisqu'il y avait un photographe officiel qui avait été désigné par la presse mondiale pour photographier la reine arrivant Gare du Nord. Et il n'a pas pu photographier la reine. Pour quelle raison ?
Il y avait trop de monde.
Non.
Elle n'avait pas les bons vêtements ?
Non, c'est pas parce qu'elle n'avait pas les bons vêtements.
Il était gare de l'Est. Il s'est planté.
Le photographe ?
Oui, il s'est planté de gare.
Est-ce qu'il n'a pas pu parce que ça vient de la reine ? Le fait qu'il n'ait pas pu vient de la reine ?
Un peu, mais
Parce qu'il avait des flashs.
C'est plutôt sa faute à lui.
Il a oublié d'enlever le cache de l'appareil photo.
Non.
Elle n'était pas maquillée.
Ah, François Hollande était à la bourre.
Non. C'était pour prendre des photos de la reine seulement. Hein.
Bien sûr, la reine débarquant, gare du Nord, si j'ose dire.
Est-ce que c'est protocolaire? Il a oublié, il a omis une formule de politesse.
C'est protocolaire.
Il n'avait pas le costume officiel du photographe de la reine.
C'est-à-dire?
Bah, j'en sais rien. Lui-même n'était pas habillé comme il le fallait peut-être.
C'est-à-dire?
En costume.
Il faut être en costume. Il était en t-shirt dégueulasse.
Cravate. Il n'avait pas de cravate. Ah. On lui a donc refusé de photographier la reine d'Angleterre. Bonne réponse de Yann Moix.
C'est énorme. Non, mais il ne pouvait pas attraper une cravate dans la foule.
Il n'est pas possible de photographier la reine d'Angleterre autrement qu'en tenue, costume, cravate.
Bah, il passait chez Célio en deux minutes et hop, il prenait sa cravate.
Trop tard, vous êtes drôle, elle ne va pas attendre sur lequel, la reine.
Ah bah si,
que l'autre aille chercher une cravate.
Ce mec, c'est quand même pas n'importe qui, j'imagine, s'il est dépêché pour prendre la reine d'Angleterre en photo. Il ne sait pas ça.
Ouais. Bah, il a oublié. Qu'est-ce que vous voulez,
c'est dingue. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on voit, sur tous les clichés de la reine, on voit que les photographes avaient des cravates.
C'est aujourd'hui sûrement qu'on va savoir qui va succéder à Cyril Hanouna. Mais à quel titre?
Ah, le tournoi des personnalités dans
l'ambiance. Célébrité, ouais.
Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il y avait un piège.
Je l'ai vu venir.
Il y avait un piège. Il s'agit effectivement du tournoi des personnalités de Roland-Garros. 21e tournoi déjà. Ça fait 21 ans, c'est vrai, Framboise Holtz, que vous organisez le tournoi des personnalités à Roland-Garros?
Oui, ça fait 21 ans, mais c'est la 22e édition, quand on est bon en maths.
Ah bah oui, évidemment. Mais vous étiez déjà là il y a 21 ans, alors?
Oh ouais, j'étais même avant, parce que j'étais petite attachée de presse et je m'occupais du tournoi qui existait avant.
Ah, vous faites bon en histoire, en fait.
Citez-moi les noms des grands vainqueurs du tournoi des personnalités de Roland-Garros. On va dire plus simplement des people, hein, tout simplement, qui jouent un tournoi parallèle, parce qu'évidemment, ils ne sont pas aussi doués que les vrais tennismen qui jouent à Roland-Garros. C'est sur un court juste à côté du central. Mais alors, qui a gagné les années précédentes?
Alors, les années précédentes, il y a eu Lord Kosciuszko, Michel Boujna, il y a très très longtemps. Il y a eu Nicolas Deuil, il y a... C'est vrai que d'une année sur l'autre, j'avoue que j'oublie un petit
PPDA,
peu.
PPDA, il a gagné déjà?
Oui.
Non, jamais.
Ah bon?
Mais il a fait une finale quand même. Il est arrivé en finale il y a très longtemps aussi.
Et alors, cette année, la finale, c'est qui?
Alors, écoutez, je suis entourée de Estelle Denis qui vient de gagner sa demi-finale.
Ah, génial.
Et
Estelle.
Qui avait, oui, Christine, je sais que tu l'apprécies beaucoup.
Ah, c'est mixte,
voilà,
donc.
Elle est à côté de moi.
C'est mixte? Ça peut être un homme contre une femme, la finale?
Non, pas du tout.
Ah, bon, il y a les femmes d'un côté et les hommes de l'autre.
Bien sûr.
Ah, quand même.
Donc, il y a Raymond Domenech qui est venu la soutenir et ils peuvent vous dire un mot si vous le souhaitez.
Ah, bah, très bien. Alors, écoutez, Raymond et Estelle, bonjour.
Alors, je vous les passe, ne quittez pas.
Merci. Elle va tomber contre qui en finale, Estelle Denis? On va lui demander.
Oui,
c'est Raymond Domenech.
A priori, c'est pas Estelle. Là-bas.
Raymond, vous êtes sur Europe 1. Vous pouvez en profiter pour demander en mariage Estelle Denis.
Non,
c'est l'occasion, c'est l'occasion.
Il y a des trucs qui se sont déjà faits. Moi, j'attends l'inverse.
À mon avis, tu peux toujours poireauter, mon Raymond.
On ne sait pas. Voilà.
Elle a été bonne en demi-finale, Estelle.
Dis donc, t'es gonflée, toi.
Elle est tout le temps, même en quart, même avant.
Et elle jouait contre qui en demi-finale?
Axel Marine.
Alors, en finale, elle va jouer contre qui?
Ah ça, je ne sais pas, moi je ne fais pas le tableau féminin. Hein.
Ah bah quand même, alors.
On va lui poser la question à elle directement.
Et vous ne participez pas, Raymond?
Si, moi j'ai participé.
Ah, vous avez terminé?
Pour avoir le droit de venir au tirage au sort, et j'ai fait un tour, le premier jour, et je suis parti au bout de 20 minutes.
Qui vous a battu, Raymond Domenech?
Je ne sais pas, un illustre inconnu, certainement. Non, un acteur.
Un acteur, alors c'est voilà. Salopard, alors.
Donc il ne se rappelle pas du nom, donc.
David Bricourt.
Il
jouait dans Sous le Soleil.
Voilà. Il y a Martin Solveig aussi, le DJ, qui ont participé à ce tournoi des personnalités. Vous pouvez nous passer...
Oui, c'est lui qui m'avait battu l'année dernière.
D'ailleurs. Ah bah oui, c'est toujours les mêmes, les salauds. Hein.
Bah, il y en a toujours un qui me bat, d'ailleurs.
C'est une malédiction, enfin.
Voilà.
Et Estelle, vous pouvez nous la passer, Estelle?
Ah, je vous la prête.
Au téléphone.
Mal,
hein. Voilà.
Allez, c'est parti. En plus, Christophe Beaugrand, son partenaire de télévision.
Oui, ma choupinette, comment ça va? Est-ce que tu as été bonne sur les cours?
Écoute, j'ai gagné, je suis contente.
Ce sera contre qui en finale, alors, Estelle?
Caroline Barclay.
Caroline Barclay.
Bon, bah, ça,
mais ça va, elle a 75 ans, tu viens.
Quoique, pour avoir épousé Barclay, elle est douée en raquette.
Avec un K, oui, ça c'est sûr.
Et chez les hommes, vous savez qui va être en finale, Estelle ?
Chez les hommes, c'est Jean Humbert contre...
Jean Humbert de Top Chef.
Contre qui ? Contre
non, il y a les demi-finales. Cyril Hanouna, Jean Humbert contre Sylvain Wiltor d'Arnaud Lemaire.
Ah oui, quand même. Ah, c'est toujours les mêmes. Parce que la finale de l'année dernière, c'était déjà Arnaud Lemaire contre Cyril Hanouna. Ça risque donc d'être la même chose. On va vous souhaiter...
Je vous repasse Framboise. Elle vous dire un petit mot.
Bon, allez-y, passez-moi à Framboise.
Bisous, Estelle.
Bonne journée à tous. La pauvre, elle n'est pas totalement au courant. Alors, non, quelques anecdotes.
Elle n'est pas totalement finie.
Non.
Alors,
quelle vie.
Dans les... des nouveaux venus cette année.
Oui.
Il y avait les deux beaux-frères du film Les dieux sont tombés sur la tête, Frédéric Shaw et Harry Habitant, donc c'était assez gai.
Ouais.
Ils se sont retrouvés l'un contre l'autre, voilà.
Alors c'est pas les dieux sont tombés sur la tête, hein, c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu.
Ouais. Ah mais oui, c'est vrai.
En même temps, les people qu'elle l'invite.
Parce que les dieux, sinon, si vous avez vu deux Africains sur le cours, c'était peut-être les dieux sont tombés sur la tête.
Non, c'est des canettes de coca.
Ça, deux Africains. On a eu.
Vous voyez, je suis pas bon en maths, mais je suis bon en cinéma, Framboise.
Oh, le mec qui oublie pas.
Donc Estelle Denis contre Caroline Barclay pour la finale femme, c'est bien
exactement.
Ça. Et pour la finale homme, il faut attendre encore pour savoir.
Et ben exactement, ça se joue. Mais Jean Humbert qui fait le tournoi, le gagnant de Top Chef, qui fait le tournoi pour la première fois, il n'est pas seulement bon au fourneau. Hein,
Framboise, est-ce que je peux vous taquiner un peu, Framboise Holtz, en vous demandant si Gérard Holtz, Julien Holtz, Antoine Holtz et Muriel Mayette Holtz participent au tournoi?
Eh bien, ils sont tous venus déjeuner, oui.
C'est
et
pas
Muriel
vrai.
Offre pour le tirage au sort des places pour la Comédie Française.
C'est pas vrai.
Elle brade.
C'est quand même génial, les familles recomposées.
Oui. Surtout les intelligentes et sympathiques.
Et ben voilà, c'est pas beau ça quand même. Hein. Vous jouez en double en fait.
Oui.
Double mixte. Le 21e tournoi des personnalités.
Non, le 22e.
Ah merde alors. Mais on m'a donné le mauvais.
Mais non, mais c'est le 21e anniversaire et donc 22e édition. Ah.
Bon, écoutez, vous vous débrouillez en tout cas.
Oui.
Que le meilleur gagne.
Et ben merci en tous les cas de nous avoir appelés.
Ben je vous en prie, au revoir Framboise Holtz.
À bientôt.
On va se gêner sur Europe 1.
16h, 18h30, Laurent Ruquier.
Christophe Beaugrand, Vincent Dedienne, Isabelle Motreau, Jérémy Michalak, Yann Moix et la reine du débarquement, Christine Bravo.
Alors, la spécialiste.
Elle sait
incollable.
Tout. Elle sait tout sur le débarquement. C'est quand même incroyable.
C'est normal, c'est une bitch.
Qu'est-ce que vous dites? Ça fait longtemps que les Anglais n'ont pas débarqué, ouais. C'est ça que vous vouliez dire?
C'est pas possible. On n'avait pas osé.
Oh non,
mais on y avait tous pensé.
Franchement, Christine, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça.
Voilà, ça les fait rire.
Bah oui, ça nous fait rire. Mais ma question n'a plus rien à voir avec le débarquement et les commémorations du 70e anniversaire. Peut-être à voir avec le débarquement, évidemment, des touristes sur les routes des vacances, ce sera pour la fin du mois, enfin, plus particulièrement, généralement, voilà, le chassé-croisé juillet-août, mais c'est vrai que début juillet, il y a déjà quelques bouchons sur les routes, mais peut-être vous allez pouvoir utiliser les BAU. De quoi s'agit-il ?
Les bandes d'arrêt d'urgence pour circuler.
Les bandes d'arrêt d'urgence, bonne réponse de Christophe Beaugrand.
Oui, c'est très étonnant comme projet. C'est Cuvillier, le ministre des Transports, qui parle de rendre accessibles les bandes d'arrêt d'urgence, mais c'est pour les véhicules autorisés, donc uniquement pour les véhicules de secours, les taxis, les bus, et si jamais on fait du covoiturage. Mais je pense que ça ne fonctionne pas pour les vacances. Hein. C'est pour les petits trajets, pour aller de Roissy à Paris, ou ce genre de choses.
Moi, je pensais que tout le monde allait pouvoir utiliser les bandes d'arrêt.
Imagine le bordel. De toute façon, tout le monde va faire semblant de faire du covoiturage alors.
Oui,
quand tu pars en famille, tu dis non, on covoiture. Ma femme, elle s'est inscrite sur le site.
Ça devrait être comme aux États-Unis, tu sais, la fameuse. La poule, je ne sais plus comment ça s'appelle, la voie où tu vas plus vite. Si vous êtes plus que deux...
Il suffit de pas être seul dans sa voiture. À partir du moment où vous êtes deux dans une voiture, il y a une sorte de fil que tu peux prendre qui est prioritaire. Il y a beaucoup moins d'embouteillages que sur les autres.
C'est vrai
sauf qu'il y a des flics et si tu te fais attraper, tu prends $1,500 d'amende et tu recommences pas. Quoi.
Si t'es plus deux, hein.
Oui,
si t'es moins
la voiture n'avance pas.
Moins
deux, c'est rare. C'est...
Oui, il y en a pas énormément.
C'est la voiture Google.
C'est qu'à 2000.
C'est moins deux.
Si t'es moins de un et qu'il y a moins de un flic qui est sur le bord de la route,
moi je la prends déjà là-bas. bande d'arrêt d'urgence.
Ah, j'étais sûr.
Mais c'est voilà. normal, tu te balades en ambulance maintenant.
Mais oui, mais t'as un pote, moi je fais ça. Le pote il conduit et puis moi je dis vas-y,
t'as un pote
là, à fond. Et puis si jamais on fait arrêter, je fais. Je suis en train d'accoucher.
Enfin, comme dans un.
Non, ça non.
Ça je peux plus, mais.
Non, tu peux plus.
Tu vois, tu fais. Je fais un malaise, on cherche une sortie.
Oui, comme dans Intouchable, t'as raison.
Et t'as les flics qui t'escortent.
Ça va bien.
Formidable.
La bande d'arrêt d'urgence.
C'est bien de donner ce genre de conseils.
C'est très civique.
Bien sûr.
Je l'ai fait parce que tu sais très bien, j'ai des crises d'angoisse dans les embouteillages. Il faut bien que je trouve un truc.
Pourquoi il sait très bien, Joujou, expliquer.
Parce que j'ai fait 10 jours de voyage avec lui en crise d'angoisse.
Non, et en camping-car. C'est aussi ça le petit détail supplémentaire.
Et alors
que, non, mais c'est vrai qu'elle a des crises d'angoisse pour tout et pour n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle a des trucs en cas de je sais pas, de problème qu'elle pourrait avoir. Et donc elle a des seringues qui sont planquées partout. Il y en avait dans le camping-car, il y avait des trousses à pharmacie partout. C'était une ambulance le bordel.
C'est des trucs qu'elle a gardés depuis le Tour de France.
Sans doute, ouais. On les a pas essayés.
Les flics doivent adorer ça.
Non, c'est ça.
On oublie le camping-car et l'ambulance de Christine Bravo pour une question culturelle. Ça fait du bien. Vous me direz qu'il y en a eu quand même sur le débarquement, mais là, elle est encore plus culturelle, cette question-là. Pour quelle raison dans la presse aujourd'hui nous cite-t-on le nom de Constant Coquelin ?
Je crois que c'est le premier à avoir joué Cyrano de Bergerac.
Bonne réponse de Yann Wax.
On avait dit, c'était pour Yann.
Ah oui. Et pourquoi en parle-t-on dans la presse aujourd'hui ?
Parce que Cyrano revient sur les planches avec Philippe Torreton.
Avec Philippe Torreton, exactement. À l'Odéon, il est génial.
Il a eu le Molière. Hein,
j'y suis allé cette semaine voir cette version de Cyrano de Bergerac à l'Odéon, mise en scène. Il faut citer le metteur en scène parce que c'est assez incroyable ce qu'il fait Dominique Pitoiset. Vous le connaissez
Dominique Pitoiset, pas personnellement, mais je connais. Ouais,
j'aime. Ah, non, parce que c'est très contemporain, hein, il faut savoir. Effectivement, ça se passe dans un asile de fous. On peut être déconcerté pendant les 3-4 premières minutes parce qu'on n'est évidemment pas habitué à ce genre de mise en scène pour Cyrano de Bergerac. Mais alors, je dois dire, c'est hallucinant, c'est incroyable, c'est plein de trouvailles.
C'est en vers.
Ah ben, évidemment.
Ils
n'ont rien changé au texte d'Edmond Rostand. Torreton est incroyable. Je n'ai pas vu 10 000 versions de Cyrano de Bergerac, mais j'en ai quand même vu quelques-unes. Je veux dire que la tirade d'aînés par Torreton est absolument réjouissante. Et on oublie quand même, hein, parce qu'il y a longtemps aussi qu'on a vu Depardieu aussi dans le film de Rapneau dans Cyrano, on oublie le nombre de scènes cultes qu'il y a quand même dans cette pièce de Rostand. Il y en a énormément. La scène du balcon, alors c'est incroyable. Si je vous raconte ça, vous allez me dire, ah bah non, c'est nul, mais je vous jure que c'est formidable, la scène du balcon.
Par Skype.
C'est par Skype. C'est-à-dire que là, vous avez Christian qui est sur son ordinateur Apple qui fait sa déclaration à Roxane qui est sur un écran vidéo.
En webcam.
En webcam, exactement. Alors, comme il ne veut pas que Roxane voit que c'est pas lui qui parle, mais que c'est évidemment Cyrano de Bergerac qui fait la déclaration à sa place, hop, il surélève un peu la caméra et on voit pas sa bouche. Roxane ne voit évidemment que le haut de son visage pendant que c'est Cyrano de Bergerac. C'est extraordinaire, vraiment. Je veux dire, c'est une mise en scène incroyable.
Et Torreton s'interrompt pas pour insulter Depardieu en plein milieu de la pièce.
Non. Vous qui êtes comédien au départ, vous êtes acteur quand même.
Et puis c'est après que ça a foutu le temps. Oui. C'est après que ça s'est compliqué.
Vous la connaissez, la tirade d'aînés, vous, Dodienne ?
Oh, pas par cœur, mais oui.
Allez-y voir.
On aurait pu dire au Dieu bien des choses en somme, en variant le ton par exemple. Tenez, agressif. Et puis après, bon, voilà, vous lirez la pièce.
Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que l'on me l'amputasse.
Ah ben, vous connaissez la tirade des nez, vous.
Vous voulez que je vous dise pourquoi je la connais ? Parce que j'avais une cassette de André Lamy quand j'étais petit.
C'est pas possible.
On part sur Edmond Rostand, on arrive sur André Lamy.
Il faisait un sketch sur la tirade des nez en faisant des voix différentes à chaque fois. Donc moi, je sais que. Il faisait, si j'avais un tel nez, il faudrait que je me l'empuisse.
C'est Georges Marchais.
C'est
génial. J'en ai peur.
Je m'en souviens avec.
Et après, allez-y avec les imitations.
Je sais plus les autres imitations. Je me souviens.
C'est le seul mec de moins de 40 ans qui fait Georges Marchais.
Oui. Vous vous rendez compte. Je suis désolé, j'ai beaucoup de références. Et mon Rostand, c'est le André Lamy de l'époque. Hein.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a Pierre Douglas et Christophe Beaugrand pour continuer, évidemment.
À penser à André Lamy.
À penser.
Et à Georges Marchais.
Et à Georges Marchais. C'est un rock, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je ? C'est un cap, c'est une péninsule. De quoi sert cette oblongue capsule ?
De quoi sert cette oblongue capsule ? C'était Michel Serrault. Je m'en souviens.
Mais regarde comme il est content.
C'était ridicule.
Non mais quand il se souvient. Le texte est génial pour parler de ce nez. Quand même, c'est incroyable. C'est de quoi sert cette oblongue capsule ? d'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Aimez-vous à ce point, allez-y, si vous la connaissez.
D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? C'était égal à bruit, celle-là.
Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? C'est quand même formidable.
Mais toute la pièce est sublime. Oui.
Assez sublime.
Elle est drôle, elle est hyper drôle, elle est bouleversante à plein de moments. La fin est sublime.
Et quand tu as vu que ça se passait dans un asile de fous et qu'un personnage avait un grand nez, ça t'a pas rappelé le boulot quand tu viens ici?
Sœur Bravo de Bergerac.
Par exemple.
Par exemple. Non, courez-y hein, si vous avez l'occasion et la chance de pouvoir venir à l'Odéon avant le 28 juin. T'aurait-on franchement fait un triomphe dans ce Cyrano de Bergerac. Quelle chanteuse fut la compagne, et j'avoue que je l'ignorais, je l'ai appris grâce au Figaro ce matin, quelle chanteuse fut la compagne de Steve Jobs?
Oh. Une chanteuse américaine?
Une chanteuse américaine, elle est née à New York, c'est vrai.
Grande star?
Grande star.
Beyoncé?
Beyoncé, non.
À quelle époque ils ont été ensemble plutôt?
Dans les années 80. Alors que, voilà, sa carrière, elle, on va dire, marquait un peu le pas. Mais lui était quand même le créateur de la marque Apple, oui.
Whitney Houston.
Whitney Houston, non.
Genre bonasse un peu, quand même.
Comment ça, genre bonasse?
Genre sexy, belle.
Genre Parton.
Non, c'est pas ce qu'on dit d'elle, non, franchement. D'accord. Pas.
Elle est moche.
J'irais, c'est plutôt... Non, elle est pas moche, mais... Non, moi, alors, je vais vous dire, moi, je la trouve belle, mais pas physiquement, belle dans son âme.
Barbara Streisand.
Barbara Streisand,
alors,
non.
Tu dis, dans les années 80, elle était plus vieille que lui, alors, j'imagine.
Elle est née en 41, elle.
Cher?
Non.
Sony.
Sony.
Sony, non, c'est Apple.
Sony, c'est un garçon. Sans plus.
Est-ce qu'elle est la copine de Dylan?
Eh ben oui, mais alors.
John Baez. Voilà,
John Baez. Bonne réponse de Christophe Beaugrand.
Je l'ai donné.
Non, c'est moi qui ai la réponse.
Je l'ai donné.
Eh ouais, ça peut paraître incroyable parce que c'est un couple tellement étonnant. John Baez, celle qui a combattu contre la guerre du Vietnam, celle qui était la compagne de Bob Dylan, celle qui a chanté.
Mais elle devait être plus vieille que lui alors.
Don't Cry for Me, Angelina, la chanteuse Babacou, la chanteuse, pas 68 heures, c'est très français ça, mais enfin, en tout cas, la chanteuse de Woodstock, qu'elle soit effectivement pendant années en couple avec Steve Jobs, voilà quand même un attelage étonnant.
Mais avec lui, elle avait un mec et un Mac.
C'est pas mal, mais c'est surtout ce qui est drôle, c'est ce qu'elle rappelle dans le Figaro. Elle dit: un journaliste australien m'a un jour dit que j'étais probablement la seule femme au monde à avoir vu Steve Jobs et Bob Dylan nus. C'est quand même vrai. Interrogé par Olivier Nuc dans le Figaro, John Baez dit qu'elle a revu Steve Jobs 3 mois avant sa mort. Je lui ai demandé ce que ça faisait d'avoir changé le monde. Il m'a répondu: ça va. C'est quand même une belle histoire. On écoute John Baez. Après vous avoir raconté le débarquement, Christine Bravo vous raconte Woodstock. John Baez, Bob Dylan. Vous avez rencontré Bob Dylan,
évidemment. Elle nous a surtout appris à rouler un pétard pendant l'église. C'était surtout ça.
Non, mais vous avez rencontré Dylan ou pas, Christine?
Non, Dylan, Hugo non, mais Frey, John Baez, oui, je l'avais reçu dans Froufrou ou Union Libre. Alors, tu vois, ça fait très longtemps. Et
elle dégage un truc. Moi aussi, j'ai eu la chance de la recevoir par 2 fois, je crois.
C'est impressionnant.
À l'époque de France Inter, c'est impressionnant parce qu'elle dégage un charisme.
C'est ça, c'est une sorte d'aura incroyable.
Hallucinant.
J'ai jamais vu ça.
Elle a la paix en elle.
Ouais, voilà. Elle la transmet.
Voilà, on s'est beaucoup moqué d'elle. Même Coluche, d'ailleurs, dans ses sketchs, souvenez-vous, disait: dès qu'il y a une guerre dans le monde, hop, il y a John Baez qui vient chanter. mais au fond, quand vous la rencontrez, c'est fou, elle a la paix en elle. Ouais, et ça, c'est assez incroyable. Par exemple, c'est pas ce qu'on peut dire de vous, ça, Christine.
Non, non, non.
Mais John Baez pas.
Elle a tellement la paix en elle que je vous recommande juste d'aller chercher une chanson, n'importe quelle chanson d'elle.
Quel album?
Il y a un nouvel album qui sort. Mais autrement, il y a des albums où elle chante même d'ailleurs quelques chansons en français, puisqu'elle a repris Le Déserteur de Boris Vian, qu'elle interprétait sur scène. Elle a repris aussi la chanson Parachutiste de Georges Moustaki.
Oh là là, quelle mémoire.
Quand elle est venue, c'est dans l'article. Quand elle est venue. Non, mais je savais.
Et sa magnifique version de Tirlipompon sur le chinois.
Ça, on va le faire. John Baez chantant Tirlipompon, faut demander à Beaugrand ça.
Les pimpons sur le chihuahua, tire les pimpons sur le chihuahua.
Et pourquoi c'est sur l'heure de Marie Myriam?
Je sais pas, parce que je me suis trompé. Mais ça ressemble en fait, ça correspondait à l'Eurovision.
Ah oui, t'as raison.
Ah oui, tiens, ils l'ont piqué.
Mais t'as raison.
Mais oui, les chansons qui se ressemblent.
Ah, c'est démarqué. Mais t'as raison.
Allez, une autre question. Qui a accepté d'être le conseiller culturel de Robert Ménard à la mairie de Béziers.
Ah, oui, le
Jean Roucas.
Mais non, c'est l'ancien météorologue.
Michel Cardoz. Michel Cardoz, bonne réponse.
Michel Cardoz.
Mais il n'était pas communiste, lui. Il était communiste, il n'était pas au PC.
Il était communiste, il était journaliste à l'Humanité.
Oui, c'est ça.
D'ailleurs, il a fait carrière à la météo au moment où la gauche est passée au pouvoir. Il n'y a jamais de hasard. Ouais. Souvenez-vous de lui avec ses grosses moustaches. Oh, c'est lui, d'ailleurs, je crois, qui a été le premier à donner un dicton
au moment de la
météo. À la télé, ça se faisait déjà à la radio, mais
avec son accent.
À la télévision, il vous donnait toujours le fameux dicton à la fin de la météo. Avec son accent rocailleux, demain, il fera un temps superbe.
Là, il va refaire sa moustache autrement et prendre un accent allemand.
Il va passer sur une moustache plus courte.
Ouais. Il explique, il dit, moi j'ai accepté parce que c'est un copain, tout simplement, c'est un ami. Béziers est une belle ville et je vais travailler aux côtés de Robert Ménard à l'invention d'un projet culturel. C'est quand même surprenant, Michel Cardoz, conseiller culturel de Robert Ménard.
Non, mais de la part des communistes, on peut s'attendre à tout.
Non, mais c'est pas le premier.
C'est pas une contradiction près.
Non, mais on dit beaucoup que l'électorat communiste s'est reporté vers le Front National. Donc c'est assez cohérent, finalement.
C'est pas toi qui disait cette phrase, donc je trouve génial, qui dit
J'aime bien quand vous me citez, Jean.
C'est que je suis pas sûr que ça soit toi. Mais c'est un truc que t'as dit un jour. Il sait plus si c'est de Bergson ou de vous.
J'hésite. Non, je sais plus qui c'est qui disait ça. Que quelqu'un qui vote Front National, c'est souvent un communiste qui s'est fait cambrioler deux fois.
Ah non, c'est pas moi.
Je trouve ça génial comme formule.
Et con, c'était de Cyril Hanouna.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur.
Bonjour Monique, bonjour Sylvain.
Bonjour à tous.
Bonjour Monique Laurent. Est à Barbazan, de bas, j'espère que je prononce bien, c'est dans les Hautes-Pyrénées.
Voilà, bien prononcé.
Ah ben merci Monique. Et Sylvain est à Masny dans le Nord.
C'est bien ça, oui.
Et ça vous fait rire.
Le S se prononce ou pas ?
Non, pas du tout, non.
Ah, je vais dire Mani alors.
Exactement.
C'est Sylvain de Mani.
Eh oui.
Eh oui. Oh, vous avez bien le oui du nord, du ch'ti.
Ah non, faut pas me dire ça, non.
On a entendu le oui. Hein.
Ah oui, on a entendu le oui. Dans le nord, on dit oui. Et Monique, j'ai pas vraiment entendu l'accent des Hautes-Pyrénées en revanche.
Ah oui, je revendique même.
Voilà. Comme toutes les Monique de Monique Pontel, c'est
par
pareil.
Exemple. Et voilà. C'est vrai.
Qu'est-ce que vous faites, vous? Elle est déjà là, Monique
mais
Pontel.
Oui, je suis déjà arrivé parce que je mets du temps à me déplacer maintenant. Alors je suis en un kit en roulette maintenant. Voilà. Allez, allez-y, les jeux là.
Qu'est-ce que vous faites, vous, Monique, dans la vie?
Je suis comptable.
Comptable. Et vous comptez quoi alors?
Oh, je compte des litres de carburant.
Ah oui, c'est passionnant ça alors.
Tout à fait.
Et alors, vous avez mangé une quiche à quoi hier soir, vous?
Non, j'ai mangé un taboulé avec des tomates.
Non, vous avez mangé une quiche, Monique. Bon, on raccroche, Monique, alors.
Eh bien, au revoir.
C'est perdu. La pauvre.
C'est perdu, c'était le jeu de la quiche.
Vous l'aimiez bien, vous, Monique. Moi, je ne l'ai pas aimé.
Non, je plaisante, Monique.
Vous ne laissez pas faire par Vincent de Diane, Monique. Assumez votre taboulé jusqu'au bout.
Voilà.
Juste un taboulé, c'était léger.
Taboulé, glace, taboulé tomate et une glace en dessert.
Ah oui, quand même, alors on ne se refuse rien.
Tout à fait.
Et du côté de Mani, dans le Nord, alors?
Oui, moi je suis...
Oui.
On a entendu. C'est normal.
On va lancer le ni oui ni non.
Non, mais vous le faites exprès, là.
Mais non.
Il va manger des huîtres.
Oui, pas oui, oui.
Non, mais je ne dirai pas, là.
Commencez votre phrase après.
Alors, j'ai mangé des huîtres.
Est-ce que vous êtes allé au Quick hier soir? Essayez de le dire, pour voir.
Non, je ne dis pas.
Il ne va plus vouloir parler.
Bon, qu'est-ce que vous avez...
Vous moquez de moi, donc.
Non. Dans cette émission,
s'il y a bien une émission où on se moque pas.
Qu'est-ce qui s'est passé à Ouistreham aujourd'hui?
Alors, Sylvain, qu'est-ce que vous avez fait hier soir?
Hier soir, j'ai mangé un tagine d'agneau au pruneau.
Ah, tagine d'agneau au pruneau.
Oui, spécialité de la région.
Ça alors.
Ah oui, c'est régional. Oui,
mais c'est qui l'a fait?
Et vous faites?
C'est mon épouse, une charmante épouse d'origine marocaine, donc ça aide.
Et il était bon?
Délicieux. Ouais.
Il n'est pas tombé dans le piège.
Mais elle est du Maroc, elle est de Marrakech?
Exactement.
C'est dommage qu'elle ne soit pas des Savira.
Il va dire affirmatif. Affirmatif.
Et vous ne m'avez pas dit ce que vous faisiez dans la vie, Sylvain, je crois.
Je suis conducteur de train.
Conducteur de train.
Ah oui, d'accord. Et ils vont vite, vos trains?
100 km/h.
Quand même.
Et heureusement que vous n'êtes pas chef d'aiguillage.
Comment il s'appelle, ce chauffeur de taxi avec un bonnet à grelot, déjà?
Non, je crois.
Putain, on est tombé sur un intello, les mecs.
Monique et Sylvain, vous allez peut-être partir pour le Futuroscope. Un hôtel 4 étoiles vous attend pour toute votre famille. Vous pourrez partir en couple avec les enfants, si vous en avez. Vous en avez, Monique? Des grands enfants. Et vous, Sylvain ?
J'ai deux enfants.
Eh ben, parfait. C'est pour des adultes et deux enfants cette nuit dans un hôtel 4 étoiles du Futuroscope où vous pourrez évidemment profiter aussi des attractions avec les fameux lapins crétins. Êtes-vous prêts l'un et l'autre ?
On est prêts.
Alors, voici. Je vais vous poser une question qui concerne le football. Voilà. Pour quelle raison Monsieur Soner Ertec, joueur de Chasselet, un joueur français, hein, vous l'aurez compris, Chasselet est en France, est-il menacé de mort ?
Ah, c'est celui qui a blessé le joueur de Monaco, le Colombien Falcao, non ?
Excellente réponse !
Yes !
Ça continue encore cette histoire ?
Eh ben oui, mais oui, parce que pourquoi ça continue ? Parce que Falcao, on espérait que finalement, malgré sa blessure, il pourrait suffisamment revenir à temps et jouer avec l'équipe colombienne. Mais on vient d'apprendre il y a quelques jours que non, il ne pourra pas partir au Brésil avec l'équipe de Colombie. Ouais. Et là, d'un seul coup, ça se redéchaîne, ouais, évidemment. Ah, vous croyez ?
Ah ben oui, ils ont déjà buté un.
Le joueur français amateur de Chasselet, celui qui, en Coupe de France, je vous rappelle que la Coupe de France au pose parfois des clubs professionnels comme Monaco à des petits clubs amateurs. C'est au cours d'une rencontre de Coupe de France que ce jeune joueur de Chasselet a malencontreusement blessé ce joueur international, Radamel Falcao.
Mais on le sait qu'il n'a pas fait exprès pourtant, le pauvre.
Mais tant pis.
Il y a toute la Colombie contre lui.
Mais c'est affreux cette histoire.
T'imagines la Colombie contre toi, toi ?
Mais ça rappelle un souvenir douloureux, dit la presse, le funeste destin d'Andrés Escobar. Ce dernier était un défenseur colombien qui avait été abattu sur le parking d'une boîte de nuit de Medellín il y a 20
ans. Mais lui, il méritait.
Parce qu'il avait marqué un but contre son camp lors du mondial face aux États-Unis.
Non, les Colombiens, ils règlent leur compte à Medellín. Ils vont pas venir à Chasselet pour le buter, le mec.
On ne sait pas.
Les mecs, ils vont prendre l'avion.
Mais ils doivent vraiment flipper, si ça se trouve. Hein.
Mais ils sont partout, les Colombiens, tu rigoles.
À Chasselet, ils sont peu nombreux. Hein.
Mais il y en a partout,
on sait jamais. Hein.
Oui. Mais on parle bien du foot, c'est-à-dire ce jeu qui se joue avec des copains.
Tout à fait.
C'est curieux.
Moi, président de la République, je supprimerais ce sport.
Ah oui ?
Ah oui, oui. Je le remplacerais par le Yams.
Pourquoi ?
Mais parce qu'il y aurait moins de tuerie.
C'est vrai.
Mais non, mais vous rendez compte. Non, mais c'est pour ça que j'aime pas le.
Vous n'aimez pas le football.
Ah, je vais hurler. Déteste. Déteste le football.
Pourquoi n'aimez pas le football ?
Mais parce que, enfin, les gens s'entretuent et puis les gens deviennent fous. Et puis je sais pas, c'est idiot, ça m'énerve. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve de parler de football.
Vous allez faire que ça là pendant.
Bah non, moi je veux pas faire que ça. Moi je vais. C'est vous qui allez faire que ça.
Bah oui. Mais pas comme ça insulter.
Non, mais surtout j'insulte personne. Je m'excuse immédiatement.
J'adore.
J'ai peur d'un coup. Quand on est Isabelle Motreau, vous n'aimez pas le foot.
Mais on se sent tout seul
quand on n'aime pas le foot.
Absolument.
Non,
je suis là, les mecs.
Franchement, dans plein de conversations, qu'est-ce qu'on se sent seul.
Nous aussi, on déteste. On n'a pas voulu le soutenir.
Je serais le seul autour de cette table à aimer le football.
J'en ai peur.
Je crois que oui. Moi, je m'en fous, ça m'intéresse pas.
En fait, tu n'as jamais posé la question et on m'a soigneusement évité d'y répondre.
Pose que des questions dont vous n'avez pas les réponses. Autrement, ça n'a aucun intérêt pour cette émission. Dans un instant, ce sera le livre de la semaine.
Europe 1, on va se gêner. De la semaine.
Il est signé Vincent Duluc et ça s'appelle, c'est un titre évidemment qui fait envie, qui est curieux, qui suscite la curiosité en tout cas, qui intrigue, le cinquième Beatles. Il a existé hein, ce cinquième Beatles.
Pete Best.
Stock, vous connaissez son nom ?
C'est Pete Best. Ouais.
Pete Best.
Non, pas du tout.
Non, pas Pete.
George. Ah bon ?
George Best.
Soyons clairs.
Attention.
Les deux existent. George Best, c'est le footballeur. Pete Best, c'est le vrai cinquième Beatles et George Best est appelé le cinquième Beatles en référence à Pete Best, et c'est un livre de et c'est un livre de Vincent Duluc, c'est son vrai nom, Vincent Duluc. Et c'est chez Stock, c'est clair là pour tout le monde.
C'est très clair.
On va y arriver. Le cinquième Beatles a été lu par Isabelle Motreau, Yann Moix, Christine Bravo et Vincent De Dienne. Je commence par vous, Christine.
D'abord, j'ai été très déçue car je m'attendais effectivement à un bouquin sur les Beatles.
Voilà, sur Pete Best.
Voilà. Après, j'ai lu le quatrième de couverture, je me suis rendu compte que c'était du foot, et donc je me suis dit non, alors ça c'est vraiment pas possible. Et puis j'ai lu les premières lignes. Et là, j'ai été happée par le style. Pour moi, la littérature, d'abord, c'est ça. C'est le style. Je vous préviens, c'est simple, ça commence juste. L'Angleterre était une île et un voyage. Le ferry avait une odeur d'essence, de machine à sous à pièces, de 2 pence. Et le sol était poisseux de bière renversée. On embarquait à Calais, on irait jusqu'à Douvres, ou alors Folkestone. L'Odyssée nous arrachait à la terre pour la première fois depuis un pédalo loué à la demi-heure sur un plan d'eau de station thermale. Et alors là, ce Vincent Duluc va vous embarquer dans la vie de ce footballeur absolument génial, que j'adore. J'ai adoré, je suis tombée amoureuse de lui.
Bah, beau gosse, hein, en plus.
Oh, je suis allée voir immédiatement sur Internet. Mais surtout, on est dans un livre, comme on est dans un film. C'est-à-dire, on est dans les pubs. On le voit se traîner, on le voit baiser, on le voit marquer, on le voit monter, descendre. Oh, quel génial bouquin. C'est une biographie d'un footballeur.
C'était une légende, hein, George Best, dans le football.
Mais je n'en avais jamais entendu
c'était
parler.
C'était la pop star du football, quoi, tout simplement.
Alors voilà, mais
d'où le nom, le cinquième Beatles.
Voilà. Ce que je veux dire, c'est que sans le talent de Vincent Duluc, je ne pense pas que j'aurais accroché.
Alors on se tourne vers Vincent Dedienne, qui nous a dit tout à l'heure qu'il n'aimait pas le football.
Voilà.
Mais ça vous a intéressé quand même.
Ben oui, non seulement j'aime pas le football, mais j'aime pas non plus le rock. Et j'aime pas les livres sur le rock et les livres sur le foot et les endives. Mais bon, là, les endives, il en est pas question dans le livre, donc c'est bien. Mais moi, je me suis dit que c'était un bon livre parce que ça parle d'une époque que j'ai pas connue, mais j'ai l'impression que c'était la mienne quand même.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire que c'est les années, je ne sais plus quoi,
76,
ouais. Ouais, 70. C'est l'époque des Beatles, quoi.
T'étais
et
pas née.
C'est l'Angleterre, je connais pas l'Angleterre, je connais pas cette époque, je connais pas le rock et je déteste
tu
le foot. Je ne
connais rien, toi.
Je ne connais rien, mais je suis jeune. Non, j'ai adoré, mais par contre, j'ai fait un peu comme Christine, c'est-à-dire qu'après je suis allé voir sur internet et si je voulais être un tout petit peu méchant, je dirais que quand même la fiche Wikipédia m'a presque autant passionné que le livre.
C'est-à-dire qu'à un moment,
bah si, parce que quand même en fait, c'est-à-dire que le type est tellement incroyable, George Best,
oui.
C'est ça, hein, il est tellement incroyable, sa vie est tellement folle que du coup le récit de sa vie est un peu plat, quoi.
Ah
par
non.
Rapport à lui. Bah si,
ah
parce
non.
Que le début est vachement alléchant, mais après une fois que c'est que c'est ce qui, en plus ça s'intéresse quand même beaucoup à sa vie privée, c'est-à-dire à sa déchéance dans l'alcool, le sexe et tout ça. Les petites londoniennes et tout
mais
ça.
Mais son humour.
Bah, l'humour du type, oui,
ouais.
Mais pas l'humour de l'auteur.
Oh,
je trouve
bah
que
merde.
Le personnage est un tout petit peu plus fascinant que le récit, quoi.
Isabelle Motreau.
Moi, pareil, hein, évidemment, un footballeur, je me suis dit, oh là, mon Dieu, au secours. Et ce qui est vraiment formidable, c'est qu'il arrive à replacer la vie de George Best dans la fin d'une époque et le début d'une autre époque. En fait, c'est surtout un point de vue historique, je trouve, qui est assez touchant. C'est cette Angleterre de ces années-là. C'est le moment où on quitte le rêve des beatniks pour s'acheminer tout doucement vers les années 80. Et finalement, le parcours de ce George Best raconte assez bien la fin d'une époque et le début.
Il est pauvre.
Oui, après de quelque chose qui va être les années 90, le fric, etc. Hein, on voit venir tout ça dans la vie d'un seul homme. Moi, sur le style, j'ai adoré aussi, vraiment.
C'est un journaliste
parce que,
sportif, hein,
voilà,
Vincent Duluc.
J'ai regardé tout de suite qui c'était ce Vincent Duluc.
Ah, mais oui,
et en fait, c'est un des plus...
Oui, costaud, là.
C'est un des apparemment, une des
une
plumes
plume, hein.
De l'équipe.
Ouais, mais à l'équipe, il y a des plumes. Hein.
Bref, c'est un grand plaisir de lire ce bouquin, même quand on n'aime pas le foot. Et effectivement, George Best a une vie tout à fait étonnante. De toute façon au départ, mais quand même le style de Duluc, je trouve, replace ça dans un contexte historique vraiment plaisant.
Le cinquième Beatles, un roman signé Vincent Duluc, un bon roman selon Christine Bravo, moins intéressant pour Vincent Dedienne. Isabelle Motreau est plutôt d'accord avec Christine, et vous Yann Moix?
Je trouve ça excellent et je sais pourquoi Christine l'aime. À un moment on lit, c'était le problème avec les versions de Georges, elles venaient toutes de lui, impossible de savoir à quel moment il avait dit la vérité.
Voilà.
Donc peut-être, il y a des phrases extraordinaires. Les Beatles allaient se séparer, il était lui-même en plusieurs morceaux, etc. En fait, c'est une biographie des années 70. Et c'est toujours la même chose avec les années 70. Il suffit que vous preniez une grande personnalité un peu oubliée, Spaggiari par exemple,
ouais.
Ou le livre, vous savez,
de
Janada, sur un autre truand.
Sur Sulac,
un autre grand truand, qui sont un peu oubliés. On pourrait aussi faire un livre sur Bobby Fischer, le joueur d'échecs, ou sur Jean-Pierre Rassam, le producteur de cinéma. Pourquoi ? Parce que les années 70, c'était des années où tout était possible et où personne ne rentrait dans une case bien définie. Si on faisait le même exercice avec David Beckham, on s'ennuierait mortellement.
Oui.
Ce qui est fabuleux dans ce livre, et je le trouve vraiment effectivement le style extraordinaire, c'est que ce qui est rendu, c'est les années 70. Le personnage principal sert de curseur, de tête de lecture à ces années-là, qui sont des années d'excès, de n'importe quoi, d'informe aussi. Et je crois que c'est le même principe qu'avait pris Georges Duby pour Un dimanche de Bouvine. On prend une vie, une biographie, mais cette biographie est prétexte à nous lire des années qui ont disparu parce qu'aujourd'hui, dans l'ultra-spécialisation et dans le marketing absolu et dans le fanatisme de l'argent, on n'arrive plus simplement à pouvoir dire des existences.
Bah, je vais le lire, moi. Alors, je ne l'ai pas encore lu,
mais
je vais l'emmener au Brésil. Irma sur Europe 1. Il sera d'ailleurs l'invité de Nico Saliagas demain à 8h40 dans Les Incontournables. incontournable de Repin. Elle sera aussi dans On n'est pas couché samedi soir. Ah, ouais. Irma, un extrait de son dernier album Faces.
Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pompon.
Bonjour Monique, on commence par Sous les jupes des filles, un film Europe 1 d'Audrey Dana.
Caca, pipi, coucou, fesses et bites.
Aïe.
C'est vrai le film, oui.
Oh merde.
Le film est formaté pour cartonner. C'est ce qu'il fait d'abord.
Ça marche, hein.
Ça marche très fort.
Ah oui,
très c'est fort. Un gros cycle monstruel joué par des actrices intrépides et très jolies comme Alice Aguilloni ou Vanessa Paradis, pour qui j'ai un faible.
Et qui s'accasta, il y a un casting incroyable.
Elles disent des cochonneries en ayant l'art de réciter une enquête sociologique sur 11 jeunes femmes qui parlent de leur cul pendant je sais pas.
Marina Hans, Julie oui. Ferrier, il y a Isabelle Adjani aussi.
Isabelle Adjani, elle n'aurait pas dû le faire. Ah. Parce qu'elle est trop vieille pour le rôle. Et la pauvre femme, j'ai vu dans un journal sa photo, et dessous, il y a écrit « Isabelle Adjani, ménopausée ». C'est distingué d'écrire des choses pareilles. Enfin, ça fait venir les gens. Hein.
Ça marche sous les jupes des filles.
Ah, ça marche très bien, c'est vraiment dommage, parce que moi, ça me met hors de moi, ce film, vraiment. Quoi? Parce que c'est néo-macho, c'est terrible. C'est-à-dire, sous prétexte qu'on parle des règles, dès le début, dès la première scène d'ouverture, c'est vraiment « Ah, super, on prend des libertés ». Tout ça pour finalement aboutir à quoi ? À montrer que les femmes aujourd'hui c'est libéré, et donc une femme libérée c'est quoi? C'est une femme vulgaire,
hystérique,
finalement hystérique, et qui finalement n'est rien sans un homme.
C'est pas sympa pour donc, Christine ce qu'on raconte.
Donc
là,
sous les jupes des filles il y a des crinolines en fait, hein, c'est ça qu'elle nous montre Audrey Dana, c'est vraiment tout ça pour démontrer une espèce de féminisme à la mort moelle neuve, excusez-moi de l'expression, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment tout le machisme étalé pendant deux heures.
Je suis pas d'accord, c'est parce que je suis pas une femme.
C'est caricatural, c'est vraiment l'horreur.
On sent que vous n'avez pas aimé, Isabelle.
Ah, j'ai détesté.
Monique Pantel non plus, au final, j'ai bien compris.
Oui, mais c'est vulgaire et tout ça, mais moi, c'est pas pour me gêner, la vulgarité.
Mais bon. Non, mais moi non plus, d'habitude, mais là, vraiment, c'est juste écoutez,
en tout cas, c'est un succès.
En tout cas, ça marche.
Pour l'instant, dans les salles, sous les jupes des filles. Tristesse Club, avec Laurent Lafitte, Ludivine Sagnier et Vincent Macaigne.
Eh bien, c'est bien tristouné. Hein. Ah. Ça ressemble à son titre. Non, moi, j'ai pas aimé.
Arrête.
J'arrête, oui, heureusement, parce qu'il n'y a rien à dire. Oh là là.
Vous n'avez pas aimé Tristesse Club,
non,
Monique Pantel.
Non, pas du tout. Hein. Et les gens sont dormis dans
mais
la salle
pas du
cinéma.
Tout, mais tu vas voir ça avec ton club du troisième âge, alors
oui,
forcément.
Oui, peut-être, mais c'est chiant.
Eh ben, cela dit, pour Beaugrand, sous les jupes des filles, c'est Tristesse Club. Hein.
Alors vous, qu'est-ce que vous avez aimé, Isabelle?
Alors moi, j'ai beaucoup
dans
aimé
Tristesse Club.
Le trio des comédiens, d'abord, parce qu'ils sont vraiment tous les trois formidables. C'est une comédie mélancolique et drôle. C'est rare. C'est un petit bijou de nostalgie et de drôlerie, d'humour et de finesse. C'est un nouveau. Non, c'est un ton tout à fait inattendu. Et vraiment, il faut suivre ce jeune. Il faut suivre ce jeune réalisateur parce que les comédies à la française qui sont vraiment drôles, il y en a pas tant que ça.
Non,
et à mon avis,
c'est
un nom
vrai
qu'on va retenir.
Bon, alors on passe à The Edge of Tomorrow, un film Tomorrow, pardon, Tomorrow, The Edge of Tomorrow. Décidément, même quand je veux, j'y arrive pas. Je fais exprès, on va finir par croire. Avec Tom Cruise et Emily Blunt, on a parlé cette semaine dans notre émission. Hein, c'est cette histoire d'araignée extraterrestre.
C'est compliqué à résumer. Hein.
Contre lesquelles Tom Cruise.
Le pauvre qui meurt de trouille. Le pauvre, il a pourtant très peur.
Va venir débarquer sur les plages de Normandie parce que finalement c'est.
Et oui,
c'est
il est là en Normandie, à côté de nous. Peut-être qu'il va croiser la reine d'Angleterre.
Et alors, c'est bien ou pas bien?
C'est charmant. Ah. C'est pas très bien, mais c'est pas très mauvais.
C'est rigolo de dire charmant pour un film avec des araignées géantes qui viennent de l'espace.
C'est lui qui est charmant. Ah, parce qu'elle le tue, les araignées, mais lui, il a plus d'un tour dans son sac. Il a reçu le sang des araignées et ça le rend immunitaire. Enfin bref, il meurt pas, il meurt jamais.
Immunisé, oui.
C'est un peu le système d'un jour sans fin,
oui,
finalement.
Oui, c'est la même chose.
En science-fiction.
Edge of Tomorrow, vous l'avez vu?
Moi, j'ai bien aimé la science-fiction. Et là, c'est franchement réussi. Et puis les uchronies, les trucs, les boucles temporelles, etc. C'est toujours très réjouissant quand c'est réussi. Et là, vraiment, ça marche bien.
Swim, Little Fish Swim, le film de Lola Bessis, avec Lola Bessis et des acteurs américains qu'on connaît un peu moins. Mais c'est un film, on va dire, style cinéma indépendant américain. Moi, que j'ai bien aimé. Mais vous?
Eh bien, moi, ça m'a un peu endormi.
Ah, bah c'est alors.
Parce que j'étais sur mon canapé pour le regarder en DVD. Et c'est peut-être ça. Il fallait le voir assis.
Peut-être.
C'est la meilleure chronique cinéma du monde.
Alors là.
Le film à voir alors... assis, les films à voir couché.
Bien sûr.
C'est un film à voir accroupi. Debout. Alors, c'est vrai que c'est un film à voir assis, mais c'est assez drôle. Hein.
C'est quand même très réussi ce premier film.
Ouais. Moi c'est de Lola Bessie, c'est Ruben Amar.
Ils sont deux, c'est vrai.
Mais alors, ils sont vraiment quand même assez prodigieux, puisqu'ils sont tous les deux très jeunes. Lola Bessie, elle a une vingtaine d'années. Et c'est assez marrant.
23 ans.
C'est un peu agaçant par moment parce que c'est le côté un peu branchouille,
c'est underground.
Une jeune artiste contemporaine qui vend son film à New York. Mais c'est assez bien vu et assez drôle justement sur ce petit milieu qui a plein de défauts et qu'on aime bien voir caricaturé. C'est très frais, c'est très réussi. Moi,
doit vendre par exemple son âme au diable quand on est un artiste, c'est-à-dire par exemple au monde de la publicité, au capitalisme, c'est un peu ça.
Et puis il y a le paradoxe avec sa mère qui elle est une artiste qui a réussi. Alors donc est-ce qu'on doit suivre les traces des artistes qui ont réussi ou pas? Non, c'est un petit film plus malin qu'il en a l'air.
Mais en tout cas, il y a un bon film.
Ah, allez-y alors.
C'est Les Poings contre les Murs.
Parlez-nous de ce film alors.
Il est très bien. Il vous frappe en plein cœur. C'est un jeune délinquant, Jacques, qui est joué merveilleusement par Jacques O'Connell. Il est excessif, il est jeté en prison comme un jeune-noce à des chiens fous. À l'intérieur de la prison, il y a son père qui fait la loi parce qu'il est là pour la vie. C'est des gens malhonnêtes, ils sont pas bien. Il se met en colère tout le temps. J'avais envie de lui dire, te mets pas en colère. Plus il se met en colère, plus il a les gardiens contre lui. Mmh. C'est très, très bien fait.
Alors, très bien. Sur vos conseils, on ira voir Les Poings contre les Murs, Monique. On termine avec La Mente religieuse, avec la très jolie Mylène Jeanpanoï.
Ah bon, mais enfin, bon, c'est vraiment con. Hein.
Ah oui.
Elle séduit un jeune prêtre, il faut dire qu'il est très très mignon.
Ah, ça, oui.
Et alors ils se laissent séduire et ils font l'amour, couilles rabattues. Ah, ça ne les empêche pas de se poser des questions. Ouais, qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Dans quel état est le cinoche pour sortir un tel navet?
La Mente religieuse, lui, il a aimé.
Non, mais ce qui est étonnant, c'est la réalisatrice. Pourquoi elle a décidé de faire ce film? Parce qu'elle avait un projet de film. Un jour, elle a un accident de voiture, mais vraiment extrêmement grave. Et elle dit qu'elle a vu Jésus au moment où elle a failli mourir et qu'elle a eu envie d'écrire. Elle a écrit ce film en 3 semaines dans la foulée.
C'est Nathalie Saraco, la
réalisatrice. Et elle a réussi à monter ce film, y compris en demandant de l'argent visiblement à des investisseurs catholiques qui avaient envie d'investir sur ce film. C'est assez intéressant comme démarche.
En tête du box-office, Sous les jupes des filles, le film d'Audrey Dana, mais aussi le Tom Cruise, évidemment, Edge of Tomorrow. Mais on retiendra aussi que Monique Pantel vous conseille, pourquoi pas, d'aller voir Les Poings contre les Murs. Quant à, évidemment, Isabelle Motreau, elle a préféré plutôt Tristesse Club.
Ah oui, voilà. Très drôle.
C'est un joli résumé. On se retrouve avec l'invité d'honneur après les infos de 18h.
Europe 1, on va se gêner.
Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur?
Bonsoir, invité d'honneur. Bienvenue dans notre émission. Oh, dites donc, petite voix déformée qui va être difficile d'identifier. C'est une femme, vous l'aurez compris, qui est dans notre loge d'honneur. À vous de poser les questions suivantes.
Une femme timide?
Est-ce que vous êtes connue pour être plutôt une femme, justement, rigolote et souriante, en tout cas?
Non.
Vous avez commencé le traitement à quel âge?
J'ai essayé de rattraper, mais non, ça ne marchait pas.
Est-ce que vous parlez plusieurs langues?
Oui.
Est-ce que vous êtes née en France?
Mais ah non, vous voulez savoir où elle est née?
Oui. Oui.
Ah bah tenez, écoutez ce premier indice.
Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordará, que viva España. La gente canta con ardor, que viva España.
Là, je crois que c'est clair, évidemment. Hein.
Je suis sûr que c'est une ruse.
Comment ça?
T'as balancé l'indice trop tôt, on pense que c'est un piège.
Ah non, êtes-vous bien né en Espagne?
Oui.
Oui, oui.
Mais elle est ukrainienne, c'est bon.
Mais personne ne le sait, vous n'avez pas forcément un type espagnol, c'est ça?
Ah oui. Oui, voilà, Jean, elle est née en Espagne par hasard. Oui.
Est-ce que vous êtes encore là en Espagne?
Non. Ah. Vous parlez espagnol? Oui.
Est-ce que vous aimez Sacha Guitry?
Est-ce que vous avez eu une aventure avec lui?
Récemment.
Voici un deuxième indice musical.
Quand l'amour a tant qu'il est passé sur moi, l'amour a tout emporté, dévasté ma vie, dévasté.
C'était le deuxième indice qui vous aide les uns et les autres.
Bon, on a reconnu Stéphanie de Monaco, mais ça ne nous aide pas plus que
Vincent
ça.
Vincent Dedienne pense évidemment que c'est un indice lié à la météo. Il propose Catherine Laborde. Êtes-vous Catherine Laborde?
Non.
Vous fréquentez des hommes politiques?
Non.
Vous fréquentez qui?
Je fréquente personne.
Vous sortez vraiment beaucoup la nuit ou pas?
Non.
Non, voici justement un troisième indice. Réfléchissez bien, on revient dans un instant après la pub.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Le monde est tout blanc, le monde est tout blanc, le monde est tout blanc, méfie-toi des blancs.
Bon, on en était déjà au troisième indice, il faut passer aux questions sérieuses maintenant.
Est-ce que vous connaissez Alizée, puisque c'est Alizée qui chante la chanson, la blonde?
Non.
Attendez, Alizée, ouragan, et ça n'a rien à voir avec la météo.
Non.
Est-ce que vous êtes déjà vu monter sur une scène?
Oui.
Est-ce que vous êtes chanteuse?
Oui.
Oui. Est-ce que vous êtes une chanteuse qui a signé plusieurs grands tubes que toute la France connaît et fredonne?
Oui.
Est-ce que vous avez commencé votre carrière très jeune?
Oui.
Est-ce que vous chantez dans plusieurs langues?
Oui.
Est-ce que vous avez fait partie d'un groupe?
Oui.
Et vous faites toujours partie d'un groupe?
Non.
Ah, aujourd'hui, vous avez une carrière
solo. Tout début, hein, c'est un groupe punk au départ, c'est ça?
Oui.
Ouais. Vous êtes connu. Est-ce que vous avez un nom et un prénom ou simplement un seul mot pour vous désigner?
Non, prénom.
Un nom et un prénom, et d'ailleurs l'indice suivant va peut-être vous aider.
Moi j'avais peur, toi tu tremblais, du fond du cœur tu m'appelais, et cette nuit était pour toi la première fois. Oui, je découvrais un peu de toi. Du bout des yeux, du bout des doigts, ton premier cri, ce fut mon nom, la première.
Et évidemment, j'étais sûr que cet indice aiderait Christophe Beaugrand.
C'est
il
le
a
prénom de la chanson.
Déjà identifié notre invité d'honneur. Non, ce n'est pas le prénom. Non, si vous voulez le prénom et le nom, alors il faut écouter cet indice-là plutôt. Profitez-en, hein, relaxez-vous à la maison.
Ouais. On vous reconnaît aux États-Unis?
Est-ce que vous avez souvent chanté en duo?
Oui, non.
Pas vraiment, hein, on ne vous connaît pas pour des duos en tout cas.
On a dit que vous aviez fait partie d'un groupe de punk il y a plusieurs années. Est-ce qu'aujourd'hui la musique, les chansons que vous interprétez sont plutôt dans un registre rock?
Pop.
Pop. Pop.
Est-ce que c'est vous qui écrivez?
Oui.
Est-ce que vous écrivez aussi pour d'autres?
Non.
Est-ce que vous faites autre chose que chanteuse, par exemple comédienne? Ah.
Mais c'est plus rare.
Ah, c'est plus rare.
Je ne veux pas mettre mes camarades sur de mauvaises pistes. Écoutez quand même cet extrait.
Fils d'un maréchal ferrant de village, il avait été élevé par le curé de Brangues. Vers l'âge de 19 ans, il avait été placé par ce curé dans une famille riche du pays, celle des Michoux de la Tour. Monsieur Michoux était un industriel. Il avait une femme de 36 ans environ. Que se passa-t-il exactement? On ne le sait pas. Il est certain que le jeune Berthet fit la cour à Madame Michoux. Lui céda-t-elle? C'est ce qui, au cours du procès, ne fut jamais complètement.
Ça devrait
clair.
Aider Yann Moix et Vincent Dedienne, quand même.
C'est un procès.
Ah non, pas du tout.
On découvre quand même que Monsieur Michoux avait une femme. Hein. C'est quand même ça le scoop. Est-ce que vous êtes présente sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et compagnie? Oh là 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 là. On parlait de. Il y avait Johnny, comme Johnny Hallyday, comme on disait tout à l'heure. Vous avez fait la première partie de Johnny?
Non.
Vous avez chanté déjà avec lui? En duo?
Non.
Écoutez pourtant cet indice supplémentaire.
Qui s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Moi j'aime l'amour qui fait bon.
Franchement, là on ne peut pas être plus clair.
Est-ce que c'est vous qui chantez
quand même?
Est-ce que... Mais non, c'est pas elle qui chante.
Bon alors, attends, il y a beaucoup de Johnny,
Johnny
là.
Johnny Hallyday, Johnny fais-moi mal.
Je confirme.
Est-ce que Johnny c'est quelque chose qui vous parle? C'est ça qu'on cherche? Il y a quelque chose de Johnny en vous?
Oui.
Ah,
ah là 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 là, vous êtes nul hein. Moi je dis rien, mais vous êtes nul.
Bon, alors, j'ai un dernier indice, allons-y, le tout dernier.
Johnny.
L'enseigne au néon à l'entrée du
bouge, éclaire la chambre noire d'une lueur rouge quand descend le soir. Et dans cette chambre rouge, il y a un grand type noir avec une fille rouge en robe de soie noire. L'enseigne au néon à l'entrée du bouge éclaire la chambre.
Je suis sûr que Jérémy Michalak, je le dis même avant de lire. Voilà, ça y est, il a trouvé.
Ah, quand même.
Ils sont deux autour de la table. Et ils vont
alors,
d'ailleurs...
c'est pas Johnny Hallyday l'histoire, c'est un autre Johnny.
Eh oui, oui, ça, oui. Oubliez Johnny Hallyday, Christine, parce que là, vous êtes largués.
Bah oui, on est tous largués.
Et laissez Jérémy Michalak et Christophe Beaugrand annoncer l'arrivée dans notre studio de.
Jeanne Masse.
Jeanne Masse est notre invitée d'honneur.
Jamais cru.
Jeanne Masse est notre invitée d'honneur. Elle sort un 15e album. Un album qui s'appelle H2O et vous serez aux Folies Bergères en octobre prochain, à la rentrée, le 17 octobre précisément. Bienvenue Jeanne Masse.
Merci.
J'ai votre nouvel album dans les mains, 12 chansons. On va écouter très vite Pablo et puis après on en parlera et on reviendra évidemment sur les indices. Pablo, ouais. Une des nouvelles chansons de Jeanne Masse. Jeanne Masse est notre invitée d'honneur. Elle vient nous revoir avec un nouvel album, des nouvelles chansons. Et elle sera sur scène en octobre à Paris, aux Folies Bergères. Vous y serez évidemment, Beaugrand.
Oh bah j'espère. Oui, oui. Ah oui, oui.
Vous étiez le premier à identifier Jeanne Masse grâce à la chanson de Johnny Hallyday. La première fois, parce que ça vous a rappelé.
Toute première fois.
Bah, il y a toute première fois, évidemment.
Et oui, toute première fois.
Oui. Et tu recherches dans le vague une ombre.
Pas gâcher la chanson. Pardon.
Toute première fois.
Et l'autre chanson, évidemment, Johnny. Pourquoi Johnny Hallyday revenait régulièrement.
Johnny serre le vieux dans ses bras. Et Johnny s'éveille, ne la trouve pas. Et Johnny s'égare, ne comprend pas. Non, Johnny, cette femme n'est plus à toi.
Ouais, c'est l'anniversaire de Beaugrand, c'est le bonjour de sa vie.
Il connaît tout par cœur.
Comme un écho.
Ça vous fait plaisir ou ça vous fait peur, Jeanne Masse?
Ça mixe, à mon avis.
Non, ça me fait plaisir.
Ça vous fait plaisir.
Ça nous fait peur.
Vincent Dedienne, vous étiez à deux doigts de trouver Jeanne Masse?
Bah oui, je l'avais écrit.
Et pourquoi vous n'avez pas donné alors?
Eh ben parce que j'y ai pas cru.
Il a pas osé.
J'ai pas osé penser que j'allais rencontrer Jeanne Masse.
Tu m'étonnes que t'aimes pas le rock fumier.
Mais en plus, Johnny, je connais en plus.
La chanson de Johnny? Ah bah oui, alors. Et alors, quand même, ne pas avoir reconnu un extrait du Rouge et Noir de Stendhal quand je vous ai passé le Rouge et le Noir.
J'exilerais ma peur, j'irais plus haut que ces montagnes de douleur.
Franchement, non mais
évidemment c'est... qu'on avait reconnu Yann.
Vous savez pourquoi j'ai doublement honte, Laurent?
Oui.
Vous savez ce que je suis en train de lire en ce moment?
Le
Rouge et le Noir.
Et ben voilà. Alors franchement, vous auriez dû.
J'en suis pas encore à ce passage.
Et la chanson de Nougaro, c'était aussi Le Rouge et le Noir. C'est d'ailleurs ce qui a fait trouver Jérémy Michalak. C'était évidemment aussi un des grands succès de Jeanne Masse.
En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir.
C'est bon ça, c'est bon.
En échange d'une trêve de douceur.
Vous êtes né en Espagne et c'était vrai, n'est-ce pas, Jeanne Masse?
Oui, mais c'est vrai, je n'ai pas vécu.
Voilà. Blonde, vous l'avez été aussi. Vous l'avez même chanté, oui, d'ailleurs. Oui, il y a eu une chanson. Ouragan de Stéphanie de Monaco, c'est parce que c'est tout simplement votre parolier compositeur favori qui a écrit la même chanson.
C'était Romano Mutsumara.
Et vous l'aviez refusé, cette chanson, vous, hein, comme un ouragan au départ.
Oui.
Et c'était Romano Mutsumara qui, effectivement, a écrit et pour Stéphanie de Monaco et pour Jeanne Masse à l'époque. Et puis, alors, il y a quand même un indice qui aurait dû vous aider, c'est celui-là.
Hey. Le massage.
Jeanne Masse.
Oh non,
je me suis dit, le mec est fou.
Non.
Bah, j'ai compris quand j'avais trouvé à ce moment-là. Et je me suis dit, masse, d'accord.
Non, mais
je cherchais des chanteuses qui s'appellent Zen.
Ça, c'est Zazie qui a fait Zen.
Le problème pour Yann, c'est qu'il y a tellement de monde masseuse qui sont arrivés en même temps que c'était très compliqué.
La couleur de vos 12 nouvelles chansons, est-ce qu'on est dans la tradition Jeanne Masse ou est-ce qu'il y a un nouveau ton?
Il y a aussi un nouveau ton. Il y a quelques Jeanne Masse et il y a aussi de très nouvelles sonorités parce que bon, je me suis un petit peu inspirée du R&B pour pouvoir poser dessus mes textes.
Là, vous êtes habillée en noir aujourd'hui. Est-ce que vous pensez refaire Invité Mystère en rouge la semaine prochaine?
Avec plaisir.
Pourquoi vous êtes toujours tout en noir comme ça?
Je sais pas, j'aime ça, je me sens plus à l'aise. Enfin, j'adore les couleurs, hein. J'ai chez moi maintenant, j'ai plein de couleurs depuis que j'habite aux États-Unis. J'ai fait une sorte de thérapie, donc ça va, j'accepte les couleurs, surtout le rose. Mais c'est vrai que par moment, j'ai juste besoin de m'habiller là où je me sens... Voilà, moi-même.
Le mieux. Christine Bravo, un mot sur Jeanne Masse. J'imagine que vous avez...
Mais je croyais que vous aviez trouvé, parce que quand vous avez parlé de l'Amérique, est-ce que vous êtes connue aux États-Unis? Je me suis dit, ça y est, elle le sait.
Eh ben non,
ah
pas
bon
du
c'était
tout.
C'était juste au hasard.
Mais complètement. C'est-à-dire, Jeanne, c'est un peu ma jeunesse, enfin notre jeunesse. Mm-hmm. Je veux dire, oui. On doit avoir...
Ah non, pas vous, non. Non. Elle est plus jeune que toi, Christine.
Elle est plus jeune que
non,
moi.
Oh,
Je pense, oui.
C'est la mienne, on n'a pas le même âge, Christine.
Oui, c'est la jeunesse de Jérémy, Vincent et moi, je pense plus.
Mais tu rigoles, moi quand j'étais jeune, j'écoutais Jeanne Masse.
On va trancher,
donc, et par rapport aux États-Unis. vous inquiétez pas, Jeanne, elle fait ça à tout le monde.
De toute façon, je crois qu'elle sait toujours pas qui
vous êtes.
Elle a dit la même chose à Laurie.
C'est un personnage, Jeanne. Je veux dire, elle est arrivée dans la chanson. Je me souviens, c'est à l'époque où je sortais beaucoup avec Ardisson. Vous avez dû connaître
bien
Thierry. Et c'était une époque où ça n'existait pas, des meufs comme ça. C'est-à-dire, c'était vraiment totalement nouveau.
Victoire de la musique à l'époque.
Elle a été une des premières nénettes comme ça, rock. Après, il y a
alors,
eu...
Alors, punk au départ, donc, hein.
Ouais.
Comment s'appelait le groupe au départ dans lequel...
Oh, mais ça, c'était en Italie, en fait. C'était un groupe anonyme qui... Mais voilà, on allait sur scène et on chantait des choses
Black and Red, ça s'appelait.
Sur l'album, en tout cas, vous n'êtes ni blonde ni brune, mais rousse. Et pourquoi ça s'appelle H2O, cet album?
C'est ma façon à moi de faire un petit hommage à cette planète que j'adore et qu'on ne cesse de détruire. Donc, de temps en temps, de rappeler que le jour où tout sera pourri, nous aussi, on sera morts.
12 nouvelles chansons de Jeanne Masse qui sera sur scène aux Folies Bergères en octobre prochain. Merci Jeanne Masse d'être venue nous présenter votre nouvelle chanson Pablo. Merci.